20% sur les peintures et teintures d'extérieur Benjamin Moore de qualité supérieure et célébrez la vie en plein air. Venez nous voir chez Junot et Frères à Québec sur Pierre-Bertrand et à Lévis sur Guillaume Couture. Des conditions s'appliquent.
Vous pensiez que la haute technologie était réservée aux modèles de luxe? Détrompez-vous. Avec la Hyundai Elantra 2026, l'innovation est la norme, pas l'exception. Siège avant chauffant, assistance à l'évitement de collision frontale avec détection des piétons et des cyclistes, assistance et système au maintien de voie et bien plus pour 71 $ par semaine avec 1 000 $ de rabais pendant l'événement Avantage Hyundai. Il nous reste même quelques 2025. Ici, la technologie n'est plus une option, c'est une expérience. Venez vivre l'expérience Sainte-Foy Hyundai.
Aubaine, des produits de qualité à prix de liquidation. Des nouveautés chaque semaine. Québec, Saint-Georges, Lévis et chapeaubaine.com. Chapeaubaine, des marchands de bonheur.
Boulevard. Québec.
102.1.
Ville de radio. À l'écoute des citoyens.
Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous.
6h, Marceau le matin, avec Yann Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le Pit Stop avec Denis Gravel. 10h, le Point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachand. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le caucus avec Antonin Niacarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir, Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parlé en semaine. Boulevard 102.1. On en jase à Boulevard 102.1 avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bon midi tout le monde, bienvenue à l'antenne de Boulevard 102.1. Bonne continuité pour ceux qui étaient durant le Point de Max. C'est votre émission d'actualité du midi, l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Évidemment, vous comprendrez qu'on va jaser de cette victoire du Canadien de Montréal hier. Contre toute attente, 3-2. Contre les Sabres de Buffalo à Buffalo, le Canadien qui s'en va en finale de conférence. Il va affronter les Hurricanes de la Caroline. Toujours invaincu présentement dans les séries éliminatoires. La série va débuter à 20h jeudi en direct de la Caroline. Pour les partisans du Canadien à Montréal, les matchs seront lundi et mercredi de la semaine prochaine. Avant, il y aura un deuxième match en Caroline. Samedi, on a le caucus avec Antonine Niacarini aussi. On va parler de Christine Fréchette, qui a remis un chandail de hockey à Emmanuel Macron, celui d'Alexandre Texier, le joueur français du Canadien. On va avoir Rémi Villemur qui va nous parler de cette intégration d'immigrants. Une vidéo qui a fait sensation sur les médias sociaux ce week-end. C'est une personne sur Instagram qui fait souvent ce type de vidéo vox pop auprès des jeunes. Mais là, il demande à des jeunes immigrants, est-ce que tu te sens québécois? Et la très grande majorité répond non. Donc, on va revenir là-dessus avec Rémi Villemur et on va parler de 129 000 pertes d'emplois en fin d'émission avec notre ami Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal. Puis j'ai un petit scoop pour vous sur des dépenses insensées chez Capital Mobilité. Donc, on sait Capital Mobilité qui viennent de perdre 4 millions dans l'aventure application multitransport. On souhaitait qu'autant les voitures de communauto que le Avelo, que le RTC soient tous sur la même application. C'est pas le cas. On a perdu 4 millions dans l'aventure, puis on aurait perdu plus d'argent. Je vais vous raconter ça aux alentours de midi 45 et midi 50. J'ai eu des informations de sources très crédibles. Pascal CV, comment vas-tu?
Ça va très bien. Vous êtes tous heureux, ça fait du bien.
Ben oui.
Vous êtes malheureux absolument, mais je trouve que cette folie-là est le fun.
Ah, la folie du Canadien est très le fun. Ça nous énergise. C'est ça, le sport. Les gens sont ensemble.
Les gens ont fêté. En passant hier, là, c'était pas parce que c'est la fin d'un week-end de 3 jours. Je me suis fait réveiller à 3h du matin et ça a été ma confirmation que le Canadien avait gagné. Quelqu'un est passé, sûrement en vélo, trottinette électrique, peu importe, avec Chante Paul dans le piton. Je savais à ce moment-là que c'était du monde heureux, fait que c'était le Canadien qui avait gagné.
Clair. Antonine Iaccarini, comment vas-tu? T'as passé une belle fin de semaine? Un beau week-end de trois jours?
Une fois, il faisait beau la fin de semaine, puis plus quand la semaine de travail recommence. Oui. Donc, merci la vie.
Merci la vie, certain. On débute l'émission en manchette, mais là, on va débuter avec une annonce. Pascal CV, tu as quelque chose à nous annoncer.
Ben oui, puis c'est pas quelque chose que, tu sais, je fais, mon Dieu, en étant totalement joyeuse, mais c'est une décision qui est franchement mûrie. Après une belle aventure ici à la radio, je voulais annoncer que je vais quitter prochainement. Donc, je vais quitter mon poste d'animatrice radio à Boulevard. Une décision qui est personnelle, qui est choisie, qui est mûrement réfléchie aussi parce que j'ai des envies de projet, peut-être des objectifs aussi que je souhaite accomplir dans les prochains mois. Puis j'ai adoré chacune des personnes avec qui j'ai travaillé. Tu sais, c'est vraiment moi qui ai annoncé ça au patron. Les patrons, tu sais, on est très, comment dire, je trouve ça élégant, la manière dont on le fait. C'est une belle façon.
Tout le monde
façon.
Est en bon terme.
Absolument, absolument. Puis tu sais, c'est une expérience ici chez Leclerc Communication qui m'a beaucoup apporté. J'ai trippé, j'ai travaillé autant en week-end qu'à Boulevard. J'ai commencé avec un de mes bons amis ici sur les ondes. Puis je veux remercier tous les membres de l'équipe parce que ceux qu'on entend en ondes, vous les connaissez, mais ceux qu'on n'entend pas hors d'onde, c'est aussi des gens exceptionnels. C'est vraiment une belle grande famille.
Vraiment.
Puis c'est pas une histoire de collègues de travail, quoi que ce soit. C'est vraiment une histoire d'objectifs personnels. Fait que je voulais remercier tout le monde qui m'ont fait une belle place à Boulevard 102.1 dans leurs oreilles tout au long de mon 4 ans et demi. Tu sais, ça va faire presque 5 ans là, que je suis en onde ici. Ça a passé extrêmement vite. Puis c'est un soutien quand même au quotidien là, que vous m'avez donné. J'ai eu des belles opportunités de grandir professionnellement. Puis je vais faire aussi un clin d'œil à plusieurs fiertés. Il y a des gens que j'admirais beaucoup à l'extérieur de la boîte qui sont rendus nos collaborateurs, qui travaillent avec nous au quotidien, qui nous avaient adoptés aussi. Puis c'est le cas d'Antonine Iaccarini. Tu sais, je me rappelle de dire à Antonine, on se connaissait très peu, « Ça te tente-tu de venir dîner avec moi? » Parce que je croyais beaucoup en ce qu'elle faisait. Puis tu sais, regardez...
De dîner sur la rue Cartier.
Exact. Puis il y a une certaine amitié qui s'est créée de ça. Il y a plusieurs de ces collaborateurs-là que je trouve que vous êtes chanceux d'entendre au quotidien. Puis je parle pas des animateurs parce que ça, c'est une denrée là, assurée. Mais on a des belles fiertés quand même ici dans la boîte. Puis je voulais souligner ça. Fait que ça a été de très belles années. Par contre, c'est pas un adieu complet. C'est juste que cette semaine, c'est ma dernière. Mm-hmm. Oui, en onde avant une trêve là, d'environ un mois. Mais je vais être de retour cet été pour participer, même pour animer plusieurs émissions. Là. Je vais être un peu partout dans la grille.
On va t'entendre cet été.
Ben oui. Puis j'ai déjà hâte de me retrouver derrière le micro cet été.
Ah, c'est cool, on voit ça.
Mais dans la décision, il faut cette transition-là. Donc, le mois où je serai pas en onde. Fait que c'était mon annonce aujourd'hui. Merci pour ces beaux moments partagés-là. Puis à très bientôt aussi sur les ondes pour vendredi.
Yes, ça fait plaisir. Écoute, Pascal, tu es une fille talentueuse. C'est certain que tu vas trouver défi à ton immense talent. J'en suis convaincu.
Ma dernière phrase, c'était vraiment pour toi, Jeff, parce que, je veux dire, on est ensemble en ce moment.
Bien sûr.
Fait que je veux juste vraiment dissocier cette annonce-là du fait qu'on a cette collaboration-là. J'ai adoré travailler avec toi. Ça a été vraiment le fun. Tu es un super chic type. T'es très humain, professionnel, gentil. Tu mérites ta place en onde. Puis c'est sûr que je peux pas ne pas saluer Yann Marceau.
Ben oui.
Avec qui j'ai passé aussi plusieurs années de complicité radiophonique. Je pense que c'est un super départ très bien fait.
Exactement. 418-971-1021, si vous voulez envoyer de l'amour à Pascal. J'ai adoré travailler avec toi également, Pascal. Donc, ce fut un immense bonheur. On fait une petite dernière semaine ensemble. Puis on va refaire une fin juin, début juillet, me semble, si je me trompe.
Oui, aussitôt que je reviens, on
se remet en scène. Un au revoir, c'est ce qu'il faut se dire.
Oui. Donc, officiellement, où je ne serai plus là, je vais revenir quelques semaines à partir de fin juin. Oui.
Cool! On est vraiment contents que tu puisses être avec nous cet été. Puis merci pour ta très, 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 très belle transparence puis pour les bons mots. C'est super apprécié. Tu iras lire les textos. Tu as beaucoup de beaux mots qui sont rentrés.
C'est fin. C'est fin. Vous me touchez.
Les beaux auditeurs de Boulevard 102.1, on vous adore. En manchette, quelques petites manchettes avant de passer à notre Alex Laramie, national, qui
absolument.
Va nous parler du match du Canadien.
Bien, je pense que la nouvelle... Il y a une éclipse médiatique totale, là.
Sur le Canadien de Montréal, sur Martin Saint-Louis, sa mère,
oui,
sur tout,
tout
ça.
Tout ça. Mais il y a quand même une info importante que je dois mentionner. C'est la Sûreté du Québec qui a procédé à l'arrestation d'un jeune homme de 18 ans qui a été impliqué dans une fusillade, je vous rappelle, du côté de Frampton. Donc, c'est la fusillade qui avait, entre autres, coûté la vie à un jeune homme de 14 ans en septembre 2024. Donc, du côté de la Beauce. Il est âgé aujourd'hui de 18 ans, mineur au moment des faits, mais le suspect a été arrêté à Rivière-des-Prairies mardi. Donc, ça fait longtemps qu'on souhaitait mettre la main sur quelqu'un là-dedans. Quand même un mort, là, puis c'était une mort violente. Le jeune homme, maintenant majeur, a été visé par un mandat d'arrestation pour avoir déchargé une arme à feu puis un incendie criminel. Il s'agit aussi d'une quatrième arrestation dans le dossier en quelques mois. Mineur de 16 ans qui avait aussi été arrêté en mars dernier en lien avec ces événements-là. Il avait comparé au tribunal la jeunesse. Il a été accusé d'entrave, d'incendie criminel d'un bâtiment, d'incendie criminel d'un véhicule aussi. Et Dawson Cyr, l'éveillé, 24 ans, lui aussi s'était fait passer les menottes. Et le Journal de Québec nous le rappelle du côté de Valleyfield en marge des accusations de décharge d'armes à feu, d'incendie criminel puis de bâtiment ainsi que d'un véhicule. Vous voyez, ça tourne tout autour de ça, mais on le savait, c'était quoi les événements à ce moment-là. Il y aura plus de détails à venir. Sinon, on nous mentionne que du côté des autoroutes, des petites rues, il y aura opération préventive pour les conducteurs de cyclomoteurs. Donc, c'est déployé surtout autour des écoles secondaires. C'est 9 écoles secondaires de la grande région de Québec qui seront touchées dès demain, entre 11h30 et 13h. On sait, ça a commencé à sortir les scooters. Soyons prudents sur nos routes. Hein. Ce sont des jeunes qui apprennent à conduire sur le réseau routier. Un dossier que ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé, Max même, considérait pas l'importance de ce dossier-là qui revient dans l'actualité. C'est la Ville de Québec qui a annoncé le début prochain des travaux de décontamination du terrain de l'ancienne usine Anacolor de Cap-Rouge et l'acquisition d'un immeuble voisin. Ça, c'est sur la rue Saint-Félix. C'est pour un peu plus $1 million. Terrain d'ancienne usine Anacolor qui avait été acheté par la Ville en 2019 pour 2,1 millions. Radio-Canada rapporte que le coût des travaux de décontamination, c'est pas encore connu, mais on aurait une entente de $4 millions, là, environ, avec le ministère des Affaires municipales. Ça avait tellement fait couler d'encre et tout ça. Puis on veut réfléchir à l'aménagement du site là, pour la suite, peut-être des immeubles et tout. Puis je termine avec une attaque américaine contre Cuba. Ça provoquerait un bain de sang aux conséquences incalculables. Et c'est ce qu'a dit le président cubain Miguel Díaz-Canel. En parallèle, on apprenait hier que Cuba a acquis plus de 300 drones militaires, évalue les possibles scénarios pour les utiliser près de la base américaine de Guantanamo.
Hier soir à Buffalo, tard, aux alentours de 11h15 du soir, le Canadien de Montréal qui continue de surprendre après le Lightning de Tampa Bay. Voilà que Buffalo est battu en 7 matchs, le 7e match sur la patinoire des Sables, comme il l'avait fait à Tampa Bay. Alex Laramie, où cette équipe va s'arrêter?
Ben, c'est un peu ça la question, hein, parce que hier, déjà, le match avait très bien commencé. On a pris une avance de 2-0 après la première période, mais on sentait que la partie glissait un peu là, du côté de Buffalo, qui sont revenus de l'arrière, notamment vraiment. Avec Rasmus Dahlin, le capitaine qui s'est quand même, faut le dire, qui s'est levé là, dans les grands moments, dans le match numéro 6 et dans le match numéro 7. Et il y a ce fameux arrêt de jeu qui a été sifflé là, par les arbitres en troisième, qui, soyons honnêtes, là, c'était un troisième but là, pour Buffalo. Là, Jacob Debèche n'avait pas la rondelle, mais bon, ça a été un appel de notre côté. On a eu la tige au Centre Bell qui nous a joué des tours. Là. Ça a été du côté de Buffalo d'avoir un mauvais appel de leur côté. Mais non, quand même assez impressionnant. Puis surtout Alex Newhook hein, qui devient pour une deuxième série consécutive l'auteur du but gagnant. Non, honnêtement, c'est un club qui est très impressionnant, surtout considérant que c'est le club le plus jeune à atteindre la finale de l'Est depuis les Canadiens en 1993. Donc, ça nous permet de rêver un peu à la Coupe Stanley aujourd'hui.
Hey, Newhook a 6 buts depuis le début des séries. Le deuxième dans l'équipe, c'est Nick Suzuki, Ural Slafovski à 4, Caulfield au centre à 4. C'est assez impressionnant ce qui se passe avec Alex Newhook. Là. Il sort un peu de nulle part là, à l'heure actuelle. Là.
Ben, c'est le genre de performance que tu as besoin là, pour faire un bout de chemin en série. Tu as besoin de joueurs de soutien, là, de joueurs un peu de deuxième plan qui vont élever leur niveau de jeu. Parce que Caulfield, ça a été mieux là, la série contre les Sabres, mais Juraj Slafkovský, c'est un petit peu plus difficile, il faut se l'avouer. Suzuki, lui, ça va super bien, Lennon Thune. Mais c'est justement, tu as besoin d'acteurs comme des Alex Newhook. On a vu un Alex Carrier jouer une très grosse partie hier. Mais tu as besoin de ce genre de joueurs-là qui vont élever leur niveau de jeu si tu veux battre un club aussi talentueux que Buffalo. J'ai douté de Buffalo toute l'année, mais je vais quand même leur donner un peu de crédit. Ils nous ont donné pas mal de fil à retordre, nous pousser jusqu'en septième match. Gagner le match samedi soir à Montréal, il fallait le faire.
8-3, il fallait le faire de la façon qu'ils l'ont fait. Parmi les employés de soutien qui vont très bien, il y a mon préféré.
Back to the line for Hudson. Lane Hudson picks up the two. It'll be Suzuki in front. Scores! It's Bolduc! A power play goal! And for the first time, a guy on the second power play unit has struck.
Ce gars-là, je pense qu'il est né pour gagner. On le vu avec les Remparts de Québec à quel point, quand les séries éliminatoires arrivaient, il élevait son jeu d'un cran. Il devenait plus physique, il devenait plus mature dans son jeu. C'est exactement ce qu'on voit de Zachary Bolduc dans les deux premières séries.
Ah non, t'as tout à fait raison. Puis le duo qu'ils forment avec Kirby Dack, là, ça semble fonctionner, là, malgré qu'ils n'ont pas été beaucoup utilisés là, en troisième période. Là, et on voulait protéger l'avance. Puis Kirby Dack a quand même fait une erreur que je pense que ça a coûté du temps de jeu à Zachary Bolduc. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas parce que c'est un Québécois. Là, je veux dire, il joue très bien. Puis on l'a vu sur son but. Zachary Bolduc, un tir de la Ligue nationale. Là, probablement dans les meilleurs au niveau du Canadien. Là. Moi, je mettrais Caulfield, évidemment, premier. Mais celui qui a le meilleur tir, Bolduc est peut-être deuxième ou troisième au gros, gros, gros maximum. Non, honnêtement, il performe super bien dans les séries avec une saison qui a été avec des hauts et des bas. Mais là, on voit tout ce qu'il peut apporter aux Canadiens, Zachary Bolduc en série.
On aime beaucoup le sport pour ce que ça amène, c'est-à-dire que bon, dans les foyers, on se réunit dans les bars sportifs, tout le monde vit une passion, mais on aime aussi le sport pour ses histoires humaines. On écoute Martin Saint-Louis après le match.
Après avoir félicité tes adjoints, puis tout ça, t'es parti marcher dans le fond de la zone, t'as regardé au ciel, c'est-tu possible de partager? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Ça avait l'air d'être plus que du soulagement.
Bien, je parlais à ma mère beaucoup durant l'overtime. Et je l'ai remercié.
Merci, Martin.
C'est vraiment ça.
C'est bon, ça, c'est
tout. Ah oui, c'est beau. Pour rappel, la mère de Martin Saint-Louis est décédée, si je me souviens bien, printemps 2015 ou 2016, Alex. Et c'était alors que les Rangers étaient en pleine série contre le Canadien de Montréal. Et je me souviens, en deux matchs à Montréal, bien, toute l'équipe des Rangers s'était rendue à la chapelle pour les funérailles de la mère à Martin Saint-Louis. Donc,
c'est en 2014.
2014, fait qu'il y a de quoi d'historique là-dedans, là, entre justement Martin Saint-Louis, sa mère et le Canadien.
Ben oui, puis c'est le fun d'avoir des aspects un peu humains, là, parce que tu sais, on critique les joueurs, des fois on critique certaines décisions de Martin Saint-Louis, mais d'avoir un peu l'homme derrière le coach, ça vient nous toucher. Je pense que ça nous rapproche aussi de Martin Saint-Louis, qu'on se rend compte que ben oui, il est comme nous tous, on a des proches qui sont décédés, puis quand ça va moins bien, quand on a besoin d'aide, ben on se tourne un peu vers eux. Évidemment, ça a amené un peu de larmes là, dans les yeux d'un peu tout le monde. C'était très, très, très touchant. Puis je pense qu'en série, il faut aller un peu se nourrir là, de cette énergie-là. C'est super important. Fait que de voir un Martin Saint-Louis qui s'ouvre comme ça, je pense qu'au final, c'est bénéfique pour tout le monde.
Pendant qu'on parle de Martin Saint-Louis, les gars, tu sais, au début, on dirait que personne ne croyait là, à un nouveau coach pour le Canadien. Tout ça.
En effet.
Vous semblez, vous êtes attachés, là, clairement. Vous l'aimez maintenant. C'est le gars qui s'affiche dans la Ligue nationale et tout ça. Mais l'aimez-vous pour vrai? Est-ce que vous trouvez que maintenant, il vous a prouvé que c'était sa place?
Ben moi, je trouve que oui. Là. Moi, je pense que Martin Saint-Louis, en ce moment, il s'est élevé dans le rôle des meilleurs coachs à travers la Ligue nationale. Oui, on est rendu au carré d'or, c'est grâce aux joueurs sur la glace, mais je pense que sans Martin Saint-Louis, je ne suis pas certain que le Canadien serait rendu où est-ce qu'il est rendu. On le sait qu'il livre souvent des discours très, très passionnés dans la chambre des joueurs. Non, c'est un grand atout, puis ça a été un coup de maître là, de Kent Hughes d'aller chercher ce gars-là qui avait vraiment aucune expérience au niveau de coach. Là. Oui, c'est quand même un très grand joueur dans l'histoire de la Ligue nationale, mais on voit qu'il y a quelque chose avec Martin Saint-Louis. Il y a une personnalité, il y a un entre-gens qui est capable d'aller chercher avec les joueurs. On le voit souvent dans les entraînements, il va discuter pendant de longues minutes avec les jeunes joueurs, leur donne des petits conseils qui font la différence ensuite dans le match. Non, Martin Saint-Louis est intégral au succès du Canadien.
Non, puis Martin Saint-Louis a toujours repoussé les limites en tant que joueur parce qu'il était de petite taille. Il a réussi à se tailler un poste finalement avec le Lightning de Tampa Bay et remporter une Coupe Stanley. Puis là, on dirait qu'il est en train de refaire la même chose, Alex, en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire que tout le monde doutait de lui. Voyons, on a engagé un coach de Pee-Wee. Puis finalement, ben, le coach de Pee-Wee a très bien gravi les échelons. En terminant, Alex, ça commence jeudi en Caroline. On se lance au jeu des prédictions. Moi, j'ai dit les Hurricanes en 6. Je pense que les Hurricanes sont mieux reposés que le Canadien. Et au fur et à mesure que la série va avancer, ça va paraître. Mais ceci dit, le Canadien a battu les Hurricanes 4 fois cette année. Donc, ce ne serait pas une surprise non plus que Montréal se rende en grande finale de la Coupe Stanley.
Non, c'est sûr qu'on a le droit d'y rêver. Le Canadien a ses chances dans cette série-là. Mais si je regarde ça objectivement, Caroline, c'est un groupe qui est plus mature. Ça fait des années qu'ils sont en série, qui se butent à des portes fermées. L'année dernière, ils sont rendus jusqu'en finale de l'Est, font sortir par les Panthers qui gagnent la Coupe. C'est sûr qu'on va avoir un certain avantage en début de série, tu l'as dit, étant donné que nous, on est dans le beat. Eux, ça va faire 10 jours qu'ils sont arrêtés, mais une fois que la série va être commencée, rendue au match 3-4, cet effet-là va se dissiper. Puis je pense aussi que les Canadiens, on repose beaucoup sur Jakub Debeche, qui encore une fois a été excellent hier. Là. Sans lui, on ne gagnait pas. Puis à un moment donné, je veux dire, est-ce qu'il va être capable de faire des miracles à tous les matchs, à toutes les séries? Ça est difficile à croire, mais j'ai quand même envie de donner une chance aux Canadiens. Je veux dire, Caroline en 7 de mon côté. Mais...
Le Canadien échapperait un match 7 à l'étranger?
Ben, écoute, la loi de la moyenne nous dit qu'à un moment donné, ça va nous rattraper un petit c'est peu, là, mais évidemment que je souhaite une victoire du Canadien. Là, ça,
je comprends très bien. Pascal, c'est vrai, ta prédiction, toi, Caroline ou Montréal?
Pour la série complète, Montréal. On va le prendre.
En combien? 5, 6, 7?
Ah, ça, là.
8, 9.
Non, imagine. Ça serait mon genre, par exemple. Mais là, avec... Je pense qu'on va se rendre en 7 encore.
En 7 encore, le Canadien qui remportera encore sur la glace adverse. J'adore. Antonine Iaccarini, ta prédiction?
Alors, je le sais pas, Jeff. Là. Ben non, mon expertise est très limitée. moi, je dirais en 7 aussi, juste parce que j'ai l'impression qu'il y a une dynamique. Quand ils perdent, on dirait qu'ils sont boostés. Puis là, quand vient l'autre match d'après, on dirait que ça marche pas. Donc, en 7.
T'as raison, si tu regardes
pour
les
le Canadien? Ben oui, là, il faut être optimiste.
Si tu regardes les statistiques de Jakub Dobesch après une défaite, il est intraitable. 6 victoires, aucun revers. Il accorde en moyenne même pas 2 buts par match.
Je partage mon analyse.
Il bloque la majorité des lancers. Tandis qu'après une victoire, ben, il en accorde à peu près 4 par match.
Ben le samedi, c'était comme... Moi, à un moment donné, je suis allé me coucher. Là, samedi,
ben ouais.
Là.
Samedi, ouais. Mon grand s'est endormi sur le divan. Il était un peu...
Moi, c'est hier, à un moment donné. Là.
Oui, mais au moins, il y avait un enjeu. Là, c'est parce que samedi, c'était comme un petit peu juste fâchant.
Alex Laramie, on se reparle en fin d'émission demain pour le premier match. On va mettre la table de cette série Avalanche Colorado. Golden Knights de Vegas.
Yes, à demain.
Salut, à demain. Alex Laramie, chroniqueur sportif et journaliste au 99.5 Montréal. On passe au caucus.
Le caucus. Les vrais enjeux d'Aube.
Le caucus avec Antonine Iaccarini. Normalement de midi à 12h30, mais là...
Ben là...
La province de Québec vibre.
La nation québécoise.
La nation québécoise, c'est vrai, avec toi, faut que je fasse attention. Faut jamais j'appelle ça une province. Donc, la nation québécoise vibre hockey. Donc, on n'a pas le choix. En passant, là, les vieux babouneux de Québec, là, puis je faisais partie de vous autres, là, il y a à peu près 2-3 ans. Arrêtez de gâcher le fun de nos jeunes.
Ouais.
Moi, mes gonds des gilets du Canadien sur le dos. Puis qu'est-ce que tu veux que je fais avec?
Ils peuvent vous gonner, mais dans leur salon.
Ben non, mais là, c'est parce que quand j'entends dire « Notre équipe, c'est l'Avalanche du Colorado », ben voyons donc!
Non, là, peut-être là, j'ai entendu ce matin.
On disait qu'on déménageait à Colorado.
Dans
on
votre
s'est fait
pit
voler
stop,
notre club,
dans
c'est
ça. Dans votre pit-stop avec Denis ce matin, là ça s'obstinait sur. Si, mettons, c'est l'Avalanche puis Canadien, notre
pour
chandail bleu, il est-tu du Canadien ou il est de l'Avalanche? Est-ce que l'Avalanche, c'est vraiment nos anciens Nordiques? Là, ça s'obstinait. L'Avalanche, ce n'est pas les anciens Nordiques.
Non.
Le Canadien n'est pas le club des Nordiques. Les Nordiques, je pense, ne reviendront pas.
Non, exactement. Donc là, on arrête de babouner, puis profitez donc des bons moments.
Mais vous pouvez encore écouter de vieilles games, si ça vous fait plaisir. Là. C'est comme Omerta, c'est comme Virginie. C'est
il
encore
bon,
disponible.
Le but d'Alain Côté,
but
il était
bon. Ça, il était bon, le but d'Alain Côté. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hey, on parle même hockey en France. On écoute notre première ministre, Christine Fréchette.
À la fin, oui. Je dirais que sur le chemin du retour, bon, d'une part, je lui ai offert un petit cadeau sympathique. Je lui ai offert un chandail à l'effigie du joueur français dans l'équipe du Canadien. Monsieur Texier, Alexandre Texier. Donc, je lui ai expliqué que même la voix d'Alexandre Texier était utilisée pour le métro, pour lorsqu'on arrive à la station qui est sous le Centre Bell. Puis à ce moment-là, il y a vraiment, je dirais, une approche très cordiale puis amicale, pratiquement, qui s'est installée. Alors, très sympathique, très contente. Et puis, assurément, on va maintenir le contact.
Comment régler la géopolitique mondiale? T'as remis un gilet du Canadien au président français, Vicky? On est rendu chumé-chumé!
Ben oui, mais tu le sais que le sport rapproche les gens.
Exactement.
Et un sentiment très utile en politique, en acceptabilité sociale, en relations publiques, c'est la fierté. Mm-hmm. Puis quand tu vas dire à quelqu'un, vous avez un joueur qui vient de chez vous, qui est dans notre équipe et on l'aime beaucoup, ben c'est sûr que tu mets quelqu'un dans des bonnes dispositions.
Oui.
Imagine si on avait un Québécois dans l'équipe de foot de France, comment on serait content. Ben oui.
Hey, c'est vrai, ça.
On peut rêver.
Qu'on se fera aller. On peut rêver, ça n'arrivera pas, mais on se fera aller. Ça, c'est dit, Christine Fréchette est en France. Bon, moi, j'avais entendu deux objectifs clairs. De un, tisser des liens pour tout ce qui est entrepreneuriat autour du militaire, parce qu'on parle énormément de ça. Puis c'était de faire en sorte qu'Emmanuel Macron utilise son pouvoir d'influence pour que la banque de la défense s'en vienne à Montréal. Premier objectif, j'irai atteindre. Deuxième objectif, par exemple, oh boy,
on
s'est cassé à gueule. Hein?
D'abord, un petit rappel des faits. C'est Mark Carney, premier ministre du Canada, qui doit choisir l'emplacement de cette banque de défense qui sera au Canada, ce qui est une bonne nouvelle pour le pays. Mais évidemment, tout le monde tire sur la couverte. Est-ce que ce sera Vancouver, Ottawa, Toronto ou Montréal, toutes des villes quoi, dans lesquelles il y a des équipes de hockey aussi, si tu veux faire un énième lien entre le hockey et la politique ces temps-ci. Et évidemment qu'on veut que cette banque-là soit à Montréal, puis que ça joue du coude et ça joue dur. Mais d'aller demander à un chef d'État d'un autre pays de s'ingérer dans un processus qui est une décision du premier ministre du Canada, ben c'est pas une bonne idée. Est-ce que c'était vraiment prévu? Est-ce qu'à l'interne, il y a eu des discussions pour dire non, c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée? Pourquoi je dis est-ce qu'il y a eu des discussions? Parce que le délégué général du Québec à Paris, M. Rousseau, s'est un peu désolidarisé de la stratégie de Mme Fréchette par la suite, puis il a laissé entendre, ouais, c'était pas une bonne idée de demander à M. Macron de se commettre publiquement. Jamais il ne le fera. En tout cas, c'était pas une bonne idée non plus de se désolidariser de la personne qui te nomme dans ton poste.
Lui, c'est l'ancien dirigeant de la Caisse de dépôt.
C'est un des anciens dirigeants de la Caisse de dépôt qui est posté à Paris, là, qui avait été nommé par Martine Biron, ancienne ministre des Relations internationales. Tu sais, je comprends, là, moi, j'ai travaillé avec des élus. Des fois, tu es en meeting, puis tu te bats pour quelque chose, puis c'est pas ton action là, préconisée qui a été choisie. Puis on dirait que tu as le goût de dire « ouais, c'est pas mon idée, mettons », quand vient le temps de la déployer dans l'espace public. Mais une fois que la première ministre a décidé de se commettre là-dessus, ben il faut que tu t'effaces et que tu défendes ta première ministre. Mais je trouve qu'ils ont un peu échappé à ce niveau-là, parce que évidemment que M. Macron n'allait pas prendre le bord du Québec nécessairement. Pour deux raisons. Un, c'est de l'ingérence.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a une relation privilégiée entre le Québec et la France. Mais Macron, c'est pas, c'est pas Charles de Gaulle, là. Oui, il y a des présidents français qui étaient très pro-Québec et qui même ont fait un petit peu d'ingérence dans nos affaires.
Vive le Québec libre!
Exactement. Mais des présidents comme Nicolas Sarkozy, qui était très, très proche d'Ottawa, même chose avec Emmanuel Macron, qui est assez proche d'Ottawa, qui a tendance à aller voir le premier ministre canadien avant de venir au Québec ou de pas du tout venir nous voir quand il y a des rencontres officielles avec le Canada. C'était certain qu'il n'allait pas embarquer là-dedans. Là.
On a-tu pensé qu'on était trop ami-ami avec la France? Puis là, je m'explique. Moi, j'étais là quand Gabriel Attal est passé à l'Assemblée nationale. Eh hey, mon Dieu Seigneur! J'avais jamais entendu François Legault se faire flatter dans le dos même.
Oui.
La nation québécoise. Il a même parlé de Simon Jolin Barrette.
Bravo, la laïcité, la langue. Là, c'était... Oui, c'est
fait
ça.
Que là, moi, je chantais la France puis le Québec unis même
main dans la main sur la marche vers le progrès.
Ah, c'était fou. Puis on a signé des décrets. Puis, ah, et qu'on est heureux. C'était l'enfer. J'ai passé deux heures à l'Assemblée nationale à assister à cette conférence de presse-là de « Hey, je t'aime. Ah non, c'est moi qui t'aime le plus. Non, c'est moi là, qui
tellement.
T'aime le plus. »
T'as tellement raison. Puis je pense que ça a contaminé peut-être un petit peu les caquistes. Le président Macron, c'est pas Gabriel Attal. D'abord, c'est un bon coup. C'est dommage, hein, parce que c'est un bon coup de la part de la première ministre Fréchette de rencontrer Emmanuel Macron.
C'est clair.
Oui, le Québec a une relation privilégiée avec la France et la France a tendance à traiter le premier ministre québécois comme un chef d'État, beaucoup plus que d'autres pays le feraient. Mais c'est un peu au bon vouloir aussi de l'administration en place, parce que formellement, le vis-à-vis d'Emmanuel Macron, c'est Mark Carney.
Mm-hmm.
Donc, quand Gabriel Attal était venu au Québec, ben, premièrement, Gabriel Attal, c'était le premier ministre.
Exactement.
C'est le chef du gouvernement en France. C'est un peu différent. Je pense que l'équipe de Mme Fréchette, les gens qui sont sur place à Paris et le cabinet de la première ministre auraient dû préparer le terrain pour ne pas du tout que ce soit un objectif que M. Macron se mêle de qui va avoir la Banque de défense au Canada. Mm-hmm. Il aurait dû au contraire dire, vous savez, on va parler de défense, mais on ne va pas aborder la question de la Banque de défense, une décision du premier ministre, puis évidemment du Canadien, puis évidemment, on ne va pas demander à M. Macron de se mêler de ça, puis de le pousser à faire de l'ingérence. Bien sûr qu'on ne le mettra pas dans cette situation-là. Donc, ça met un peu de friture sur la ligne. Puis dans ce genre de mission-là, tu as beau avoir fait 95 % de choses correctement, bien, le petit côté négatif, ça met beaucoup d'ombrage sur tout le reste, puisque le reste, je veux dire, c'est une mission qui est très réussie.
Ben oui.
On n'avait pas l'objectif d'aller signer des ententes demain matin nécessairement. C'est des sujets qui sont d'intérêt. Là, je pense notamment, évidemment, à tout ce qui touche la défense, les investissements en défense, mais aussi la découvrabilité des contenus francophones. C'est un intérêt commun qu'on a avec la France et les autres pays de la francophonie. Et c'est très important pour le gouvernement de la CAQ, mais je pense pour pas mal tout le monde en ce moment se dit que ça n'a pas de bon sens avec les plateformes, à quel point on ne trouve pas le contenu francophone facilement, puis que les nouvelles générations ont moins accès. La question des minéraux stratégiques, qui est cruciale pour l'économie du Québec, mais aussi, tu peux faire des liens avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique en ce moment. Hein. Tout le monde s'arrache ces minéraux critiques.
Je comprends pas que ça prenne pas plus de place dans l'actualité. Là. Ça, c'est
énorme.
Mais
ça va en prendre de plus en plus. Tu sais, puis je voyais, évidemment, il y a plusieurs projets qui sont en cours, mais il y a beaucoup de questions d'acceptabilité sociale entourant les minéraux critiques.
Vraiment.
Qui, des fois, sont dans certaines municipalités, proches des gens, etc. Je pense j'ai vraiment un blanc de mémoire, là, mais dans le coin des Laurentides, en ce moment, il y a un projet de mine de graphite.
Mm-hmm.
Nouveau monde, ça s'appelle. Voilà.
Et voilà.
Qui brasse beaucoup de choses là. Les gens, ils veulent pas avoir ça derrière chez eux, mais quand on veut faire de l'électrification des transports notamment, puis développer des batteries,
on
ça va nous
choix.
Prendre ça.
Exactement. Donc c'est un peu, mais en même temps, tu comprends les gens avec à l'époque comment ça a été développé d'avoir toujours cette petite crainte là, mais à un moment donné, il va falloir passer outre ça. Puis là, c'est facile pour moi de dire ça parce que ça se passe pas dans
ou
ma conscience.
On s'entend, mais tu sais, là les gens, quand on parle d'acceptabilité sociale, souvent on parle d'oléoduc et de gazoduc.
Mm-hmm.
Mais justement, c'est quoi l'alternative des batteries,
de
l'électrification?
Tu parles de nouveau monde. Moi, je m'attendais à l'annonce de ce matin, puis ça vient de sortir il y a 5 minutes. Fait que c'est super target dans ce qu'on discute, mais le gouvernement du Québec qui vient d'annoncer sa participation pour 85 millions de dollars dans le projet de mine de nouveau monde de graphite du côté de Saint-Michel-des-Saints.
Oui, c'est très important. Donc, bref, tu as raison de dire que ça prend peut-être pas toujours autant d'espace que les questions de l'oléoduc, mais c'est très stratégique pour le Québec, mais aussi pour M. Carney, hein, qui veut des projets qui fonctionnent, qui a tout un plan de transformation de l'économie canadienne. Et je trouve que les sujets qui ont été apportés par Mme Fréchette en France sont très complémentaires avec ce que fait Mark Carney en ce moment sur la scène internationale. On n'est pas dans des dissonances non plus. Hein. Il y a eu certaines époques, je pense à l'époque de Stephen Harper et de Jean Charest, au Québec, où il y avait vraiment une dissonance. Quand M. Charest, à l'international, il disait pas des messages concomitants avec ceux de Stephen Harper, notamment sur les questions d'environnement.
Mm-hmm.
On n'est pas là-dedans en ce moment. Le Québec fait son pan de travail de son côté pour être sûr de tirer son épingle du jeu. On n'est pas en dissonance avec Ottawa et le travail de Mark Carney.
Parlant de friture sur la ligne, parlant de grands projets, parlant d'objectifs de Mark Carney, il a déposé un plan énergétique et un plan d'électrification, justement, pan-canadien, développement de notre réseau électrique jusqu'en 2050. Mais là, il y a de la friture sur la ligne entre Churchill Falls et Québec le projet, puis pas à peu près.
Oui, là, il faut comprendre, de notre point de vue au Québec, on ne réalise pas à quel point c'est un sujet sensible qui fait bobo là, du côté de Terre-Neuve-Labrador quand on parle de Churchill Falls.
C'est parce que, si tu me permets l'expression, on les a fourrés pendant une couple d'années.
Ils se sont fait fourrer, OK, pendant longtemps. Mais même, tu sais, tu peux te faire fourrer, mais tu peux te sentir très humilié. L'humiliation, que ce soit en politique ou dans vos relations interpersonnelles, ça a tendance à créer de la colère et même beaucoup de rancœur. Donc, quand vient le temps de renégocier l'entente de Churchill Falls, le Québec devait prendre en considération qu'on n'est pas devant nécessairement quelqu'un de 100% rationnel. On est devant, il peut avoir des envies de vengeance, de faire payer pour le passé de cette entente-là où on achetait une électricité à tellement beaucoup. Certains vous diraient, ben, il n'y avait personne à qui le vendre non plus, leur électricité, tu sais, donc qu'ils ne viennent pas se plaindre. Mais objectivement, ils se faisaient avoir sur toute la ligne.
Écoute, juste pour faire le pendant, on se plaint qu'on envoie des surplus d'électricité qui ne sont plus des surplus, mais aux États-Unis, à très, très, très bas prix. Mm-hmm. Donc, si on se plaint de ça, on peut pas dire qu'ils se plaignent pour rien là-bas.
Oui, puis là, quand on dit à bas prix, là, c'est même pas comparable. Donc, non, c'est vraiment l'enfer. Donc, il y a eu une élection à Terre-Neuve-Labrador il y a quelques mois maintenant. Et c'était le premier ministre libéral, M. Fury, qui avait signé l'entente. Et les conservateurs sont arrivés en campagne électorale en disant... Nous, cette entente-là, on n'est pas certain que c'est la bonne pour Terre-Neuve-Labrador. On va revisiter, on va faire un rapport indépendant sur cette entente et on n'exclut pas d'aller en référendum sur l'entente. Donc, c'est sûr que du côté du cabinet du premier ministre Legault à l'époque, de voir qu'on remettait en question l'entente de principe, qui, ça aussi, très objectivement, était une bonne entente. Okay, on parle de centaines de milliards de dollars pour Terre-Neuve-Labrador qui en a bien besoin. Si vous pensez que des fois, on a de la misère avec nos finances au Québec... Je ne sais rien, là, à comparer de certaines autres provinces.
Si vous croyez qu'on est endetté au Québec, à Terre-Neuve, sont endettés, je pense, le triple ou le quadruple par habitant comparativement au Québec.
Absolument. Donc, cette entente-là faisait en sorte qu'on achetait l'électricité 30 fois plus cher. OK? Donc, ouais. Quand même, c'est, j'appelle ça un pas par en avant. Et il y avait des aspects très gagnants-gagnants. On développait d'autres projets, notamment. Aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti, le rapport qui avait été commandé par le premier ministre Wickham, qui dit que cette entente-là, finalement, n'est pas si avantageuse pour Terre-Neuve-Labrador. Mais de quel point de vue? C'est pas une question de tarif d'électricité. Okay? C'est pas ça. C'est, en tout cas, de ce que j'ai vu à date, on verra là, à la lecture du rapport complet, ce serait que Terre-Neuve ne se garde pas assez d'énergie pour elle-même. Donc, parce que vous savez, l'énergie, c'est un outil de développement économique aussi.
Clairement.
Donc, selon ta stratégie énergétique et de développement économique, ben, tu peux configurer les choses de différentes manières. Mais quand même, pour Québec, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'était une entente qui était vraiment très bien pour tout le monde, qui était prévisible. Et on a un agenda électoral ici aussi, là. Il y a une campagne électorale l'automne prochain. Donc... Là, ça peut être long du côté de Terre-Neuve. Tu négocies pas ça en deux minutes. S'ils veulent faire un référendum, je vous annonce que ça ne sera pas signé cette année, là, cette affaire-là. Et là, ben, qui vont avoir comme vis-à-vis à partir d'octobre prochain? C'est qui est premier dans les sondages? Le PQ.
Ouais.
Le PQ n'a pas été tendre avec l'entente de principe qui avait été signée.
Du tout.
Et là, en plus, Terre-Neuve va aller chercher d'autres gains. Ben, je m'excuse, mais ça regarde mal. Et là, qui va s'en mêler? Qui pourrait dire, là, on va aller plus rapidement, on va s'arranger
Mark
pour que ça
Carney.
Soit signé? Ben oui, papa Carney, lui, il dit, là les enfants, là, on va se dépêcher là, avant que les séparatistes arrivent.
Ben, c'est clair!
Mais même avec la participation de Mark Carney qui veut que ça aille vite, tu peux pas forcer, tu veux dire, ça va dépendre de ce que Terre-Neuve demande. Et le premier ministre Wickham, de quoi il a besoin? Il a besoin de démontrer clairement qu'il est allé chercher des gains supplémentaire pour sa province. Ouais. Donc, est-ce que Québec est capable de donner un face saver, quelque chose pour qu'il se sauve
ben,
la face?
D'après moi, on serait peut-être capable de donner certains blocs d'énergie. Là. Si c'est juste ça que ça coûte, là, puis là, je réfléchis à voix haute avec toi, je me dis, les installations vont se faire. C'était vraiment la grande étape du plan de déploiement d'Hydro-Québec par la suite, qui
oui.
se rend jusqu'en 2050 aussi. Alors, tu sais, t'as comme pas le choix de dire « je vais faire quelques concessions pour que j'ai mon game changer,
on
là,
est
je
d'accord.
me permets l'expression anglaise. »
Mais la politique prend toujours le dessus. Est-ce qu'ils vont avoir l'air de faire des reculs? Est-ce que, finalement, les oppositions vont critiquer une nouvelle entente? T'sais, c'est beaucoup de peut-être,
ouais,
c'est beaucoup de risques politiques aussi. Madame Fréchette, la première ministre, qui a réagi en disant qu'elle avait échangé hier avec le premier ministre de Terre-Neuve-Labrador et qu'ils allaient prendre le temps d'analyser le rapport, que tout le monde s'entendait que ça prenait une entente gagnant-gagnant à brève échéance. Mais moi, je veux bien la brève échéance. Mais...
Oui, c'est ça.
On va passer un bel été à négocier. Je crois que le gouvernement du Québec a déjà fait de nombreux scénarios. Parce que de toute façon, évidemment, tout le monde surveillait l'élection. Mm-hmm. À Terre-Neuve a suivi les débats politiques avec une grande attention. D'après moi, là, ils partent pas d'une page blanche. Là. Ils doivent avoir déjà réfléchi à des scénarios où on donne des gains supplémentaires à Wakeham pour que politiquement ce soit tenable, mais que ce soit tenable politiquement aussi pour le gouvernement du Québec.
C'est ça. Maintenant, c'est de savoir si Christine Fréchette va être capable de cocher à case dans son fameux 100 jours.
Ben,
ou elle coche
ça.
Une case à chaque jour. Je sais pas si avoir le temps de le faire. On termine avec Charles Milliard, le chef du Parti libéral du Québec. Moi, j'avais été complètement subjugué, Antonine, lors de son premier point de presse, alors qu'il a été nommé chef, par cette question-ci d'un journaliste.
Est-ce que vous pensez que les Québécois sont prêts à élire un premier ministre homosexuel?
Ah, ben mon Dieu, on verra bien. Les Québécois, chaque Québécois a le droit de vote. Moi, j'ai voulu aller en politique. La politique, c'est faire une chose publique. Et je n'avais pas l'intention de me cacher par rapport à qui je suis pour les Québécois. Alors, ils jugeront, mais à voir le tonnerre de soutien que je reçois pour une nouvelle qui apparemment une nouvelle, mais qui ne l'est pas. Ben voilà, je pense que ça me remplit d'espoir. Puis s'il y a des jeunes qui nous entendent, puis qui se reconnaissent là-dedans, ben grand bien leur fasse.
Le 17 mai, c'est-à-dire dimanche, c'était la journée nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Moi, quand le journaliste a posé cette question-là, je me disais, qu'est-ce que tu veux bien que ça me calife, qu'il soit homosexuel, hétérosexuel? C'est le dernier de mes soucis. Mais coudonc, es-tu en train de reculer aussi dans notre société là-dessus? Parce que je vais te donner un exemple. Je me suis informé en fin de semaine. J'ai un contact à la prison d'Orsainville. Il me disait qu'ils sont 90 présentement en attente de passer devant le juge pour violence conjugale. Mais de boutillage, ça passe quoi avec nos hommes? Là, oui. C'est là, on est-tu vraiment redevenu avec des groupes homophobes? Là? Qu'est-ce qui se passe dans notre société?
J'ai l'impression que ces gens-là n'avaient pas vraiment disparu, mais qui sont décomplexés.
Ah,
ben, faut
ouais.
dire qu'on a un président aux États-Unis, la personne qui a le plus d'exposure médiatique au monde,
j'avoue,
qui se gêne pas là, pour faire des commentaires et déculpabiliser des gens de manquer d'humanité. Écoute, je pense que pour M. Milliard, dans l'extrait que tu as mis, c'est comme s'il était surpris de la question. Hein?
Ben oui, regarde, on va réécouter le début.
Est-ce que vous pensez que les Québécois sont prêts à élire un premier ministre homosexuel?
Ah, ben mon Dieu!
Ah, ben mon Dieu! Puis moi aussi, quand j'ai entendu cette question-là, je me disais, hey, tu sais, tu t'en vas, toi, là.
Quand t'as mis l'extrait, c'est sorti tout seul. Anto m'a regardé, mais j'ai fait, ah, tu sais,
c'est
ça. C'est
ça. On est commis.
Ouais, on sait que tu t'en vas avec ta question. T'es au Québec, on est ouvert d'esprit.
Ben,
que Charles Milliard soit homosexuel, c'est le dernier de mes soucis.
Ben, c'est bien, une fois de temps en temps, de mettre le miroir, parce que c'est vrai, tu sais, on dit, ah, ben, on est rendu ailleurs. Là. Au Québec, c'est comme les droits des LGBTQ, c'est très, c'est reconnu. On s'en fout de ça, il n'y a pas de problème. Ouais, mais quand tu grattes un peu, tu te rends compte que c'est pas, tout n'est pas réglé.
Ça me décourage.
C'est décourageant, tu sais. Puis évidemment, on peut penser au message que Bruno Marchand, maire de Québec, avait posté aussi sur les médias sociaux en mettant les commentaires que son attaché de presse recevait. Et honnêtement, je suis pas mal sûre que M. Milliard aimerait mieux parler d'autre chose.
Ben oui.
Tu sais, son engagement politique n'est pas articulé autour des droits des LGBTQ.
Non, c'est ça.
C'est sûr que ça a une place dans son cœur, probablement, mais pas plus que d'autres personnes, d'autres politiciens, nécessairement.
Ben,
tu sais,
je dirais pas plus que l'équilibre budgétaire puis l'économie.
Ouais, exact.
Tu sais, je veux dire, ça fait partie de sujets dans lesquels il va traiter politiquement, mais tu sais, il le met pas à l'avant-plan parce que il est une personne homosexuelle.
Il se cache pas. Il met pas ça au centre de son engagement politique. Mais là... T'sais, c'est le 17 mai, c'est la journée contre l'homophobie. Il voit tous les commentaires passer, puis je pense qu'il se sent sûrement une responsabilité de dire « ben moi aussi, je vais prendre la parole », juste pour rappeler aux gens que tout n'est pas réglé. Tout n'est pas réglé, là. C'est important. Il y a même une recrudescence. T'en parlais chez les jeunes, notamment. Tu parlais des milieux carcéraux aussi, mais chez les jeunes, dans les écoles secondaires, les organismes le disent qu'il y a une recrudescence de commentaires homophobes. Il y a même une recrudescence aussi de sexisme également.
Ouais,
puis d'ailleurs, en parlant de sexisme, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle parce que, bon, j'ai travaillé dans le gouvernement de Mme Marois. J'entendais beaucoup ce commentaire-là. La madame, elle passe pas. La Marois, la madame, elle passe pas.
Ouais.
Les Québécois sont pas prêts à élire une femme.
Ouais, puis là, j'entends la fréchette. Mais c'est drôle, on l'appelait pas le logo.
Non, c'est drôle, hein? C'est toujours juste les femmes.
Vous voulez-vous pas l'appeler
madame.
La première ministre? Madame la première ministre?
Mais
madame
le logo,
fréchette.
C'est fait quand même écœuré.
Oui, mais c'est
pas
appelé
pas
le
dans
logo.
Le même genre.
Ouais. Ouais, c'est ça.
T'sais, c'est pas
on dirait que t'as raison qu'on s'en permet plus.
Et je fais un lien avec ce qui se passe avec M. Milliard. quand je vois des commentaires, il y en a un qui m'a frappé particulièrement, c'est « Les Québécois sont pas prêts à élire un premier ministre gay. » Si toi, tu dis « Les Québécois sont pas prêts », je t'annonce que c'est toi qui n'es pas prêt.
Non, c'est ça,
okay? C'est toi qui ralentis le groupe.
Hey,
c'était pareil avec Mme Marois. Le monde était là, les gens sont pas prêts à élire une femme. J'étais comme « Si toutes les gens qui disent que les autres sont pas prêts... » Arrêtez de dire ça, je pense.
Voilà, c'est ça. On l'entendait aussi aux États-Unis avant l'élection de Barack Obama. Les Américains seront jamais prêts à élire une personne noire. Ben, c'est drôle.
Puis demande-leur aux Américains en ce moment qu'est-ce qu'ils choisiraient.
Ben, ils choisiraient Barack Obama.
Aussi stupide sur ma question en ce moment, au niveau du leadership, là, ils ont préféré quoi?
Ben oui, c'est clair. Hey, écoute, il y a le
surpasser leur idée innocente et raciste ou.
Ben, c'est ça.
Ben, c'est ça. Il y a racisme, il y a le sexisme, il y a tout ça. Mais l'homophobie est toujours présente. On a quand même. Tu sais, au Québec, j'aime ça regarder les bons côtés des choses aussi. Il reste des choses à faire. Mais quand même, on a deux chefs de parti ouvertement homosexuels en ce moment, dont le chef du parti le plus à droite au Québec, ben, ouais. En tout cas, le plus à droite dans les forces politiques pertinentes pour l'instant, Éric Duhaime. On a eu d'autres chefs de parti qui ont été ouvertement gays. Je pense à Manon Massé, évidemment. Sylvain Gaudreau qui a été chef intérimaire
du PQ. Oui, Sylvain Gaudreau, vois-tu, je me souvenais pas justement de son passage.
Il a été chef pendant quelques mois, mais quand même. Après ça, on peut penser évidemment à toutes sortes de ministres, d'élus qui faisaient partie de la communauté LGBT. Quand même, au Québec, oui, on peut s'enorgueillir d'être un endroit où les droits des gays sont plus avancés que dans bien des endroits dans le monde. Mais quand on lit les commentaires sur les médias sociaux, les amis, on pogne de quoi?
Non, c'est ça. Et changeons la société. Soyons des acteurs de changement. Moi, quand j'entends un propos homophobe, immédiatement, j'interviens avec la personne.
Ou sinon, non. Pour vrai, c'est aussi simple que ça, se fermer la gueule.
Exactement.
On va le dire en beauceron.
Ah, ouais.
Si toi, mettons, tu penses que ton commentaire est juste... diffamatoire, déplorable,
dans le doute,
irrespectueux.
Abstiens-toi.
Dans le doute, s'abstenir.
Mais en même temps, tu sais, je me dis, si j'ai un membre de ma famille qui est homophobe, j'aimerais aussi bien le savoir, ouvrir la discussion avec lui. Je sais que ça crée des malaises au souper de famille, des fois. Mais là, je dis ça, j'ai pas de personne dans ma famille qui... Mais j'aime mieux le savoir puis dire, OK, pourquoi tu dis ça? C'est quoi le rapport? Puis d'ouvrir le canal. Je trouve qu'au Québec, puis je vous en parle souvent, on n'est pas très bon toujours pour assumer le malaise d'un débat.
Ben,
à table.
Ça, non, mais c'est pour ça qu'il faut intervenir.
Mais sur les réseaux sociaux, tu sais, Jeff.
Ça, c'est plus tough.
C'est souvent juste quelqu'un qui veut passer son commentaire et non débattre.
Oui, mais c'est sûrement ce qu'il pense au fond de lui. Puis qu'il pense que, tu sais, je vais prendre mon iPad, là, puis m'aller l'écrire, là, que les Québécois sont pas prêts à élire un homosexuel.
Puis surtout, élevons nos enfants dans l'ouverture d'esprit. Là. Ben moi, la mère des enfants, Cynthia, faisait tellement bien ça. Ben, elle le fait encore là, avec les boys. Rapidement, je l'avais raconté en onde. Elle a fait écouter la télésérie Le Chalet, où justement, il y avait un couple d'homosexuels dans cette télésérie-là. Puis après ça, elle disait toujours aux enfants là, qui avaient genre 7 et 9 ans. Là, hey, toi, quand vous ramènerez votre première copine ou votre premier copain?
Oui.
Je trouvais ça beau, c'est une belle ouverture d'esprit.
Elle posait pas la question, mais elle proposait que tout était correct.
Exactement. Vous savez, papa et maman vont être bien ouverts.
T'sais? C'est ça.
Puis là, c'est là que je m'assinais avec, puis je suis pas ouvert. Non, vous comprenez?
Non, c'est ça. Ben, arrête, tu vas le rendre gay!
Qu'est-ce que tu dis là?
Ben, non.
Oui, c'est ça.
Non, mais
l'ouverture,
ça commence avec nos enfants. Mais j'ai envie de dire, les générations plus vieilles que nous aussi, c'est sûr, la pensée évolue.
Mais...
Moi, je vois des gens dans ma famille qui sont plus âgés et je les vois encore évoluer. Honnêtement, il ne faut pas dire, là, c'est l'ancienne génération. Ben non, ils ont des Facebook puis ils ont des iPads. Faut continuer la sensibilisation.
J'ai déjà, je vais le dire comme ça, cassé quelques personnes de 70 ans et plus qui étaient racistes.
Mm-hmm.
Et mes enfants étaient sur place. Je leur ai fait comprendre qu'on élevait nos enfants différemment.
Et voilà.
Maintenant, dans les années 2000. C'est comme ça. Faut s'assumer. Puis je pense qu'on est une société meilleure, justement. Si on accepte tous les gens, peu importe leurs différences, c'est ce qui... C'est justement ce qui fait une belle société, la différence.
Absolument. Puis de laisser le dialogue ouvert, d'apprendre à vivre avec le petit malaise, là, d'ouvrir la discussion des fois là-dessus.
C'est ça.
Voilà.
Antonine Iacarini, merci beaucoup. C'était le caucus avec Antonine Iacarini. Normalement, du lundi au jeudi, de midi à 12h30, mais vous comprendrez que...
Priorité hockey.
Ouais, on avait... Ben, c'est ça! On avait commencé avec ça!
Et Carrier s'en part d'un rond de libre. Carrier, la passe, on entre avec Newhook, Evans vers le filet, le tir, et le but! Victoire des Canadiens! Alex Newhook propulse le CH en finale de l'Association de l'Est!
On n'a pas fini de jaser d'hockey à l'émission. On en jase. Courte pause et par la suite, on fait un tour des nouvelles avec Pascal CV. Puis je vais vous parler de dépenses qui sont très nébuleuses chez Capital Mobilité, cette filiale, cette société en commandite créée par la RTC pour pas trop qu'on sache comment l'argent est dépensé. Bien, j'ai eu des informations privilégiées qui me disent que, hop, boboy, c'est pas juste 4 millions de dollars qu'on va avoir perdu avec le contrat de Siemens pour une application intégrée pour le transport en commun.
Ça a paru en fin de semaine, vous en avez profité, puis pour d'autres, ben vous avez un peu été jaloux, vous avez eu de l'envie face à ceux qui roulaient sur leurs deux roues. Parce que oui, la saison du vélo est commencée, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore les meilleurs produits de qualité du côté de Vélo de la Côte. Ben Vélo de la Côte, c'est une référence à Québec depuis multiples décennies. C'est même des employés qui ont racheté dans les dernières années pour vous offrir un service qui est impeccable, qui est authentique et toujours concentré sur le client. Que ce soit du passionné au débutant ou du débutant au passionné, peu importe vous êtes qui, vous êtes quoi, dans quelle catégorie, ben oui, parce qu'on parle de catégorie, ça peut être des vélos de route, ça peut être du gravel bike, ça peut être les nouveaux vélos électriques, ça aussi, c'est super populaire. Peu importe dans quelle catégorie, puis si jamais tu commences à être intéressé, va chez Vélo de la Côte, parce que nous, on sert tout le monde et on sait servir tout le monde. Nouveau vélo électrique, entre autres, le T-Wing avec le nouveau moteur Avinox M2 S, c'est 1500 watts de puissance de pointe, meilleur prix sur le marché, deux modèles disponibles, c'est unique aux détaillants au Québec. Vélo de gravel de tout type, t'en as avec assistance électrique ou non. Plusieurs vélos de montagne aussi pour tous les cyclistes du débutant à l'intermédiaire et l'expert pour toute la famille, c'est disponible en magasin. On a du Norco, on a du Marin, on a des vélos électriques urbains aussi, entre autres le Norco Seine qui a remporté le meilleur choix Protégez-vous en 2026. On dispose de la marque québécoise Maui, entre autres avec des vélos qui sont super légers, qui sont pliables. C'est parfait pour le camping, pour le bateau. Plusieurs choix de supports à vélo pour la voiture maintenant aussi. Donc, on a des accessoires, casques, souliers, protection, des pneus, des poignées, des pédales, les vestes d'hydratation. Ça, si t'as pas ça en 2026, faut vraiment que tu ailles en chercher une. Service de mécanique sur place, personnalisé par le propriétaire lui-même, Vélo de la Côte. C'est au boulevard Sainte-Anne, l'adresse 334 et c'est vélodelacôte.com.
Bon, je vais y aller directement au but, là. Je voulais qu'on...
Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Et à midi 56 minutes, si t'es à veille de rentrer à la maison pour ton télétravail ou à ton bureau, ben sache que blvd.fm, c'est notre web radio. Nos meilleurs moments s'y retrouvent également si jamais tu manques une partie de l'émission. BLVD 102.1, c'est notre application disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. Et avec le haut-parleur intelligent, tu dis écoutez BLVD 102.1 et on apparaît dans tes oreilles. Aujourd'hui, à la météo, quelques averses, 15 degrés Celsius. Donc, on parle pas nécessairement d'énormément d'accumulation. Alors, ça devrait bien se passer. Là, c'est ça, depuis le début de la journée, il pleut un peu, il arrête, il pleut, il arrête. Demain, 23 degrés, 40 % de possibilité d'averses. Le mercure chute par la suite jeudi à 13 degrés, mais ensoleillé. Retour du temps plus chaud, 17 degrés ensoleillé pour vendredi. Pascal, on a parlé du Canadien de Montréal. Ouais. On a parlé de Christine Fréchette en France. On a parlé, tu t'entends là, de Churchill Falls, qu'on n'est pas trop sûr ce qui va arriver. On a tout fait ça avec le caucus et avec Alex Laramé. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans l'actualité? Notamment l'arrestation d'un jeune de 18 ans, si je ne me trompe pas.
Oui, effectivement, là, les nouvelles qu'on vient de traiter, je ne les referai pas parce qu'il y a une genre d'éclipse médiatique par rapport au oui, hockey. Hein? Mais il y a beaucoup de nouvelles internationales. Celle qui nous, qui est le plus proche de nous, c'est effectivement celle de la Sûreté du Québec qui a arrêté un homme de 18 ans qui a été impliqué dans la fusillade qui avait, entre autres, coûté la vie à un mineur de 14 ans, rappelle-toi, en septembre 2024 à Frampton. Violence inouïe dans cette mort-là. Âgé aujourd'hui de 18 ans, le gars qui a été arrêté, mais il était mineur au moment des faits en 2024. Donc, il a été arrêté à Rivière-des-Prairies aujourd'hui. Il était visé par un mandat d'arrestation pour avoir déchargé une arme à feu et incendie criminel. C'est la quatrième arrestation dans le dossier en quelques mois. On avait aussi un mineur de 16 ans qui avait été arrêté en mars. Il a comparu au tribunal de la jeunesse. Il a été accusé, entre autres, d'entrave, d'incendie criminel, d'un bâtiment, incendie criminel au véhicule aussi. Un autre de 24 ans qui avait été arrêté en avril dernier pour des accusations de décharge d'armes à feu, d'incendie criminel, et aussi incendie sur un bâtiment et un véhicule. Donc, le même jour. C'est un autre suspect de 30 ans qui avait aussi été arrêté à la prison de Québec pour implication dans cette sordide histoire. Donc, il était déjà incarcéré. Quand je te dis que ça faisait plusieurs arrestations, mais ça, c'est seulement la deuxième là, où on parle là, de manipulation d'armes à feu. Donc là, on est peut-être à deux individus qui seront un petit peu plus explorés là, au niveau du procès qui va suivre. Les informations suivront aussi.
Oui, puis là, on sent que tranquillement, mais sûrement, on sait qui était sur le terrain là-bas puis qui a commandé l'affaire.
Oui, avec les informations qui nous viennent aux oreilles puis aussi les accusations qu'on peut constater. En plein là, ça. Hein? Celle d'aujourd'hui, moi, je pense que... On est peut-être sur le terrain.
OK, oui.
Élan de 14 millions de dollars pour le parc du Mont-Sainte-Anne. Ça aussi, c'est une annonce d'aujourd'hui. Le gouvernement du Québec qui enclenche une nouvelle étape dans le dossier des terrains du secteur Est, donc l'investissement de 14 millions de dollars. C'est pour les infrastructures du parc du Mont-Sainte-Anne. On investit ça au courant des prochains mois et ça va servir notamment à l'achat d'équipements essentiels aux opérations et à la construction des dites infrastructures. On a fait ça avec beaucoup d'engouement. Hein? On était avec le ministre de l'Emploi et responsable de la Capitale-Nationale, Jean-François Simard. Faut que tu comprendras que c'est de bonne humeur. Et ministre responsable du sport, loisirs, plein air, Karianne Bourassa, qui est aussi la députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Dans les nouvelles, bon, on en a jasé là, tranquillement, mais ça va prendre plus d'expansion dans les prochains mois, c'est sûr. Mais Québec, la province qui prend une participation dans Nouveau Monde Graphite. Quand on parle de minéraux importants, minerais, gouvernement du Québec qui était dans cette annonce aussi, qui est en association avec Mark Carney, donc le premier ministre du Canada, on a une participation de 85 millions de dollars dans ce projet-là du côté de Saint-Michel-des-Saints dans la Naudière. Et on y était ce matin, entre autres, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Bernard Drinville, qui était là, avec Mark Carney. C'est pas rien. Aide annoncée qui va provenir de Capital Ressources Naturelles et Énergie. Un fonds qui sera administré par Investissement Québec. C'est le bras financier du gouvernement. On va suivre ça pour vous. Gestev qui annule les spectacles de Patrick Bruel à Québec. Ça vient de tomber
très
également.
Très bonne nouvelle. Tu sais, on en avait parlé il y a à peu près une semaine et demie, un vendredi. On avait commencé l'émission avec ça en disant « Hey, avec toutes les femmes qui se disent victimes de Patrick Bruel, je comprends pas qu'on continue à prévoir ces spectacles au Québec. »
Ben, ça avait pris une dimension judiciaire assez spectaculaire, hein, puis même mondiale. On va y aller
vraiment
comme ça. Mais donc, on confirme qu'on annule les spectacles qui étaient prévus au Capitole de Québec dans le cadre de sa tournée Alors Regarde 35. Je vous rappelle qu'il y a eu des révélations de Mediapart et du magazine Elle. Il y a une trentaine de femmes qui accusent le chanteur de comportement allant du harcèlement sexuel au viol. Et on avait aussi l'histoire d'une journaliste ici québécoise, là. Donc chanteur de 67 ans, qui conteste fermement l'intégralité des accusations jusqu'à maintenant. Les États-Unis ont annoncé hier la mise sur pause de la Commission permanente mixte de défense. C'est un accord qui était vieux de plus de 80 ans avec le Canada. Donc, on est là-dedans. Le haut responsable du Pentagone accuse le Canada de ne pas avoir réalisé de progrès crédibles concernant ses engagements en matière de défense. On reviendra là-dessus. Et ce qui attire beaucoup l'attention à l'international, c'est la tension entre les États-Unis et Cuba. Il y a une attaque américaine contre Cuba qui provoquerait, et je le mets en parenthèse parce que ce sont les mots du président cubain Miguel Díaz-Canel, donc qui provoquerait un bain de sang aux conséquences incalculables. En parallèle, on apprenait hier, via d'autres médias, qu'on a acquis plus de 300 drones militaires du côté de Cuba et on évalue de possibles scénarios pour les utiliser près de la base américaine de Guantanamo. Tout le monde est au bout de sa chaîne.
Oui, vraiment, ça va être à surveiller en termes de géopolitique mondiale. Au sport, je vous rappelle cette victoire du Canadien de Montréal 3-2 hier sur les Sabres de Buffalo. Le Canadien qui sera en finale de conférence, il va affronter les Hurricanes, la Caroline. Ça débute jeudi soir, 20h. Ce sera sur les ondes de TVA Sport. Également au sport, merci à Stéphane qui nous mentionne qu'à l'heure actuelle, après 3 victoires en fin de semaine, ben regardons ça, les Capitales de Québec sont en train de mener 13-2 en fin de 6e manche à Brockton. Donc encore un bon début de saison sur la route pour nos Capitales. Leur retour à domicile est prévu le 26 mai prochain. Il reste encore des billets de disponibles. Dans les séries de la NBA, en 2e prolongation hier, les Spurs de San Antonio sont venus à bout du Thunder d'Oklahoma City, 122-115. C'est donc 1-0 dans la série pour les Spurs en finale de conférence. Thunder d'Oklahoma City, qui sont les champions défendants. Les Spurs qui ont battu 4 fois dans la saison régulière, le Thunder, donc la bête noire du Thunder. Et au baseball, les Blue Jays de Toronto se sont inclinés malheureusement hier, 7-6 face aux Yankees de Toronto, après 2 victoires à Détroit dans la ville de l'automobile.
On en jase jusqu'à 14 ans.
Pascal, je veux te parler et parler à nos auditeurs auditrices un petit peu de Capital Mobilité, cette société en commandite créée par le RTC qui normalement devrait engranger des nouveaux revenus pour le RTC.
C'était le but initialement.
C'était le but. On devrait être capable de vendre de la publicité, on devrait être capable de vendre des terrains pour de l'immobilier. Donc, c'était le but, notamment avec le tramway. Il y a des terrains que le RTC a à sa disposition sur la ligne du tramway. Puis ce qu'on voudrait faire, c'est faire en sorte de louer les étages. Donc, on amène du commercial au rez-de-chaussée, puis après ça, ça devient des tours à condos. Mais à l'heure actuelle, bien que Capital Mobilité dise hey, nous autres, là, on fait 700 000 $ de revenus, bien, c'est pas vrai, parce que la RTC donne 2,2 millions à chaque année en financement à Capital Mobilité. Fait que si tu fais 2,2 millions on moins 700 déficit, 000, tu arrives en déficit d'1,5 million. On avait sorti la nouvelle ici sur les ondes de Boulevard 102.1 il y a de cela quelques mois, là, au début de l'automne. Mais là, voilà que tu nous le rapportais dans les nouvelles la semaine dernière. Nouveau scandale qui tourne autour de Capital Mobilité. Le fameux contrat avec la firme Simon pour avoir une application multitransport qui t'aurait permis, toi, si t'es utilisatrice de n'importe quel moyen de transport, que ce soit vélo, que ce soit communauto, que ce soit l'autobus, on voulait même gérer les taxis puis les stationnements avec ça, mais t'aurais été sur cette application-là puis t'aurais dit « Hey! » Me colle un taxi.
Ce qui est extrêmement brillant, honnêtement. Là, on ne travaillait plus en silo. On répertoriait ça au même endroit.
Clairement.
On facilitait l'usage. Je pense qu'on a besoin de ça à la base. C'était une idée super brillante.
C'est une idée géniale. Idée qui a été mise en place à Montréal depuis 2017. Je dis Montréal, Montréal et ses régions, parce que c'est l'ARTM, donc l'Association de transport métropolitain qui a mis ça en place. Puis là, ben, tu peux prendre le métro, le REM,
Communauto,
Bixi, tout est sans même efficace.
Ils ont affaire avec des citoyens qui habitent à l'extérieur de l'île qui doivent se mouvoir. Puis à un moment donné, si c'était pas la même application ou le même processus, c'était un casse-tête inouï.
Exactement. Puis tu sais, il y a plusieurs citoyens à Montréal là, qui vont prendre le REM, le métro, puis qui vont peut-être bien finir la run en vélo. Là.
Oui, t'sais, absolument.
C'est exactement. C'est vu, donc c'est très, très, très
quand
pratique.
Quand j'habitais à Montréal, c'était trois. Je prenais la voiture, j'allais dans un stationnement alternatif, je prenais un autobus pour mes premiers mois. Après ça, je déménageais sur l'île, tu comprends?
Oh, oui.
Après ça, je prenais le métro, puis mes pattes pour finir
les
jambes.
Ben
non,
c'est ça, exactement. Donc, il y a vraiment, puis il y a des trains de banlieue aussi, etc. Tout ça est sous la même application. À Québec, on avait décidé de ne pas aller avec cette application-là. Et finalement, on a signé un contrat avec l'entreprise Simon, 12,1 millions de dollars. Mais là, on a dit, ça marche pas, on déchire le contrat. Mais il y a déjà 2,1 millions de dépensés, puis on doit encore 1,9 millions parce que quand tu déchires un contrat, évidemment, il y a des clauses. Donc,
mais
dans
oui.
les clauses. Donc, ça veut dire que pas d'application, on déchire le contrat. Ça a coûté 4 millions. Puis là, déjà là, on se dit, hey, tu parles d'une gestion de cabochon.
Pas dire pour quelque chose quand même là, qui, dans le moment de la signature, au moment de la signature, puis au moment où on était supposé d'aller de l'avant, c'est un court laps de temps.
Ben oui.
On s'y revirait, puis on aurait pu finalement prendre un peu plus de temps pour vérifier nos affaires puis réfléchir.
Exactement. Puis on aurait surtout pu prendre le temps de réfléchir puis de dire, gagnons ça, on prend le système de Montréal qui existe déjà parce que c'est finalement la décision, 4 millions perdus plus tard, qu'on a pris. Mais j'ai su de source sûre que c'est pas juste 4 millions qu'on va avoir perdu, patient.
Dis-nous.
Ben parce que, tu sais, pour réfléchir à ça, les gens de Capital Mobilité, ils ont fait affaire avec des compagnies externe, spécialiste pour les applications intégrées. Alors, ils ont fait affaire avec Transamo, qui est une compagnie établie à Montréal, pan-canadienne, qui justement gère différents services comme ça, différentes applications. Puis quand on va justement sur le site de Transamo, regarde, tu vas voir sur mon ordinateur, regarde, check, quand on parle d'études et planification de la mobilité, ah, c'est un métrobus du RTC. Fait qu'on leur a donné un grand contrat parce qu'on s'est dit, hey, faut réfléchir avec les meilleurs. Puis ça, même si la masse salariale de Capital Mobilité, c'est 1,7 million, là, on n'avait pas dans ce 1,7 million-là, là, c'est bon, Top Gun. Fait qu'on a dit, faut discuter avec Transamo. Puis on a dit aussi, ah ouais, quelle entreprise donc qui est bonne aussi? Ah, PMP Stratégie. Ça, c'est une compagnie, regarde, Pascal, check ça. Font des affaires partout, là. Ils offrent des services, puis des services de consultation pour la mobilité intégrée. Puis il y a Paris, Londres, Montréal, New York,
Seattle, Dubaï, Casablanca.
Dubaï, Casablanca, Toronto, Bruxelles, Madrid. Fait que là, on a dit, ah, on va y aller avec eux autres aussi. Puis ça, c'est juste à l'étape de réfléchir à notre piste de solution.
Okay.
Parce que là, nous autres, hey, on est bien meilleurs que Montréal. On fera pas comme les autres. On va la développer, notre application.
Puis ça, on voit ça dans l'état financier. Là,
ouais, c'est ça. Tu sais-tu comment ça a coûté, ça? Ça a coûté 890 000
piastres. De réfléchir. OK.
Fait que là, ça, il faut ajouter ça aux 4 millions. Tu comprends? Fait qu'on est rendu à 4,8 millions.
Pourquoi on mettait pas ça là, dans les calculs actuels?
Ben parce qu'on l'a caché dans les états financiers. On a appelé ça des services professionnels.
Fait que quand la personne a fait, par exemple, une demande d'accès à l'information pour avoir l'enveloppe que ça a coûté...
Ouais.
Il n'y avait pas assez de précision parce que probablement qu'elle n'a pas écrit qu'elle voudrait voir justement l'enveloppe.
C'est ça, c'est quoi les services professionnels?
C'est ça.
Exactement. Mais là, moi, la personne, très bonne source, m'a dit ça, Jeff, là, le 890 000, là, c'est pour l'année 2023.
OK. Puis on est en 2026.
Fait que là, y a-tu de quoi que c'est dépensé en 2022? Y a-tu de quoi que c'est dépensé en 2024? Y a-tu de quoi que c'est dépensé en 2025? On le sait pas encore. Fait que là, on est rendu devant le scandale de l'application mobile.
Pour une application.
4,8 millions de dollars tirés dans le feu. Des contribuables, on s'entend, parce que Capital Mobilité, c'est pas vrai que c'est rentable. On l'a dit, il se rend déficit de 1,5 million si c'était pas du RTC. Puis je te rappelle que le RTC, à la fin 2026... La dette va être de 144,9 millions de dollars. Fait qu'on n'a pas 4 millions. Ben 5, là, 4,8, c'est 5, à tirer dans le feu. Fait que sais-tu ce qu'on va faire? On va demander à notre journaliste sur le terrain, Mathias.
D'aller chercher les réponses.
Ben, on va dire, Mathias, fais-nous une demande.
Moi, j'ai bien peur qu'on n'ait pas la nomenclature, le mot exact,
je suis convaincu,
l'enveloppe
moi aussi.
Budgétaire. Puis ça, ça devient vraiment complexe maintenant dans les demandes d'accès à l'information.
Ah, vraiment.
Hein?
Vraiment. Ils vont tenter de tout faire, le RTC Capital Mobilité, pour camoufler l'information. Mais on va quand même la faire parce que je pense qu'on est devant un véritable scandale financier.
À 4 millions, c'est déjà énorme, là.
Ben oui, à 1,7 million de payroll, on est obligé d'aller chercher pour 890 000 piastres de services professionnels. On a dépensé 4 millions dans un contrat qui ne nous rapportera rien. Fait qu'on est à 4, ben, quasiment 9, parce que c'est 890 000. Puis je pense qu'on n'a pas fini son contrat.
On n'a toujours pas d'application, là.
Non, c'est ça, on n'a toujours pas d'application, là. Puis on va se tourner vers l'application de Montréal qui était disponible depuis 2017. Fait que ça veut dire qu'on va être 10 ans en arrière.
Qu'est-ce qui empêchait? Si quelqu'un a de l'information, 88-971-1021, ouais. Ça va être traité de manière confidentielle, là.
Ah oui.
Mais qu'est-ce qui empêchait? Puis selon vous, pourquoi on est rendu encore dans ces déboires-là? Tu sais, la RTC n'est pas gênée. Je veux même pas être... Comment... Je veux pas être démagogue, je veux pas être méchant, mais vous êtes pas gêné. Il y a pas un moment où vous dites « Colin, on peut plus en échapper une, ça va être serré, on n'aura pas le choix. »
Ben exactement.
Vous êtes pas gêné, là, c'est beaucoup là, de
ben
dossiers.
Oui,
là.
Puis souviens-toi, le marchand nous dit « Non, il n'y a pas de grand coupé au RTC. Pardon?
» Il savait-tu? Hey, moi, je me pose même la question. Je suis rendu là.
Ah, ben là, il doit pas le savoir.
Parce qu'il n'a sûrement pas fait la demande pour le fonds de...
Non,
rappelle-moi
exactement.
Comment ça s'appelle.
C'est les services professionnels.
Oui, c'est ça.
C'est ça, dans les états financiers, c'est les services professionnels. Donc, on le voit très bien en 2023 qu'il y a 890 000 $ en services professionnels et presque la totalité de ce montant-là, là, selon ma source, qui est très crédible, me dit, écoute, ça a été dépensé, ça, pour Transamo et également pour PMP Stratégie. Alors, on va creuser. Sûrement qu'on est rendu à plus loin. Ça fait quoi de savoir ça que 4,8 millions de dollars, presque 4,9 au 418-971-1021, votre argent que vous donnez via votre taxe à l'immatriculation en surplus de 60 $ se retrouve flambé par Capital Mobilité. Écrivez-nous 418-971-1021. Moi, ça me met en beau maudit.
Moi, je suis vraiment rendue tannée de ça parce que ça fait 14 ans, maintenant que je fais mon métier. Là. Oh, tout a été au sein du RTC.
Ben
ça
oui.
Me donne encore plus d'échos sur... Puis je me rappelle, dans le temps, c'était Rémi Normand qui était là, qui est à la tête de... Sous l'ère de Régis Labeaume.
Oui.
C'était tellement difficile là, d'avoir des réponses. C'était tellement arrogant là, d'avoir des réponses. Puis on sentait qu'on dérangeait en voulant dire « Faites juste chercher de la merde où il n'y en a pas. » Des années plus tard de cette ère-là.
Mm-hmm.
On est encore là, mais là, on la dépelte.
Ben oui.
La merde présumée. Puis je veux dire une affaire, quand c'est rendu dans les poches des citoyens puis qu'on n'a pas eu d'avancement, c'est là où je me permets de dire « Il n'y a personne qui est gêné. » tu sais, le réseau de transport, vous êtes en train de construire un tramway, on est en train de se battre parce qu'il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. Puis avant ça, vous avez rien à nous donner pour qu'on soit structuré, content.
En effet.
Est encore dans des changements de trajet là, à dernière minute avec des commerçants, avec des usagers. Dans le temps, j'avais fait de l'enquête, Jeff, sur des, c'est stupide, là, des rampes okay, pour handicapés qui existaient dans les autobus,
oui.
mais qui n'étaient pas facilement en marche, qui
c'est
avaient
qui
tout le temps
pas
des
fonctionnel.
Tu me connaissais-tu, toi, dans ce temps-là? T'entendais-tu parler?
Non, mais c'était épouvantable.
Ce qui n'était pas fonctionnel.
Ah, oui.
Si tu as un handicap, OK, clairement, ta solution, là, oui, il y a le transport adapté. Mais c'est toujours bien le transport en commun.
Moi, je ne te connaissais pas à ce moment-là, mais j'ai été un de ceux qui a travaillé à « faut qu'il soit fonctionnel ». Tu comprends?
À cause de la pression que les médias mettaient.
Il y a eu une
gestion de crise. Je m'excuse.
Mais il n'y a pas de trouble.
Il y a quand même
un comité de crise.
Faudrait qu'on se reparle de nos anciennes années.
Puis ils m'ont dit « toi, Jeff Fortin, viens t'en donner, tu vas être dans le comité de crise ». Là, je me souviens, quand il y a eu les premières données des rampes non fonctionnelles, j'ai regardé mon patron de l'époque et j'ai dit « non, mais... » Comment ça, on en est arrivé là?
Jeff, j'allais faire des tours d'autobus, okay,
oui,
avec des personnes handicapées pour qu'ils m'expliquent c'est quoi leur réalité. Puis j'avais un micro, puis on faisait, puis c'était n'importe quoi.
Ah, je suis capoté.
À chaque fois, c'était non, pas aujourd'hui. Mais comment tu veux qu'à...
Ben oui.
Puis la personne là, elle travaillait là, elle payait ses taxes, ses impôts, elle était utile à la société, elle attendait son autobus, elle s'est fait dire qu'il y avait des rampes, puis y a rien qui se déployait.
Non.
Puis elle est à l'heure là, pour son parcours, elle ne peut pas le savoir d'avance. C'était n'importe quoi. Oh. Là, on parle d'une petite affaire.
Oui, puis là, il a fallu que je fasse des présences dans le dépôt des chauffeurs qui appellent, là, pour sensibiliser les chauffeurs. Hey, guys, là, les rampes sont fonctionnelles. Là, n'importe quel autobus aussi, tu peux abaisser la marche.
Parce que ça, il me le disait. Certains chauffeurs m'avaient dit qu'on n'a pas eu la formation.
Là, t'es obligé de le faire. J'ai fait faire un petit autocollant. Mille autobus avec « voici la démarche à suivre pour déployer la rampe ».
C'est bon.
Voici le petit piton à peser pour rabaisser l'autobus. Parce que les chauffeurs le faisaient pas. Puis tu sais, honnêtement...
Ils voulaient le faire.
Je critiquerais pas les chauffeurs. Tu sais, comme n'importe qui, là, il y en a 5% qui... Moi, je ne serais pas
ça. Mais
le
reste, c'était super intéressant.
Et ça, c'est la société qui est de même. Mais ils ne savaient pas comment ça marchait. Fait qu'on formait les chauffeurs sans leur expliquer comment ça marchait, mais on disait au monde « Hey, nos autobus sont accessibles! »
Hey, imagine, en hiver, moi, je me rappelle une utilisatrice, là.
Ouais.
En hiver, avec sa chaise roulante, crac, ses trottoirs à moitié déneigés. Elle se faisait des bras, avait des biceps, là. Aurait pu faire de la boxe, OK?
Oui.
Puis elle attendait son autobus à moins 31 parce qu'elle s'était fait dire « il y a une rampe ».
C'est ça.
Puis l'autobus, il passait dans la face, ouvrait la porte, le chauffeur, super mal. « Je suis tellement désolée, ma rampe, je l'ai, mais... » Mais non, ça sera pas possible aujourd'hui. Ouais. Ferme-la. Ça, là, c'est quelque chose d'il y a quelques années. On est rendu à une application avec des dépassements de coûts épouvantables, avec une mauvaise gestion. Y avait-tu des problèmes, Jeff, dans le temps de, comment dire, d'imputabilité? Est-ce qu'on est capable de renvoyer du monde au RTC?
Bien, c'est une bonne question. Si on est capable de renvoyer du monde, tu as besoin de t'habiller de bonheur avec le syndicat. Les gestionnaires, j'en ai vu se faire renvoyer, mais il fallait vraiment que tu fasses des fautes graves, là.
Commence à être grave, là.
Oui, ça reste une place où il y a énormément de laisser-aller. Merci, vous êtes plusieurs à réagir, justement, par texto. Hey, on paye des gestionnaires simplement pour refiler en sous-traitance. Trop facile, j'applique. Un autre citoyen qui nous dit, hey, à ma retraite, là, je sacre mon camp. Là, je vais mettre des plus beaux mots que ce qu'il a écrit, parce qu'il dit 4,8 millions, je suis tanné du Québec, tanné que les dirigeants font pas attention à notre argent.
Ça,
puis,
se peut des erreurs, mais tu sais, moi, je me dis tout le temps, pourquoi est-ce qu'on gère pas de façon intelligente et serrée?
Exactement.
On a tellement d'argent que ça vous dérange pas d'en perdre, mais d'aller en rechercher après.
Ah, c'est ça qui fait pas de sens. Et un auditeur également qui nous écrit, ouais, c'est de valeur, mais je suis pas surpris. Puis c'est ça qui est décevant. Ouais. C'est cette... je vais le dire comme ça, là, c'est le fait que maintenant, on est plus surpris que nos dirigeants dépensent de l'argent comme ça, sans compter, puis se trompent. Alors qu'ils le feraient pas avec leur propre argent, pour reprendre les paroles d'Yannick Marceau.
Oui.
Courte pause à Boulevard 101. Par la suite, Rémi Villemur vient s'installer avec nous. On va parler, Pascal, de ces jeunes issus de l'immigration qui ne se sentent pas du tout intégrés ici au Québec. Intéressant. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que c'est de leur faute? Bref, on jase de ça avec Rémi Villemur. On jase.
Attends, tu vas où, là?
Économiser pour notre entreprise.
Économiser pour votre entreprise, c'est notre affaire. C'est pourquoi on baisse les prix sur des centaines d'articles. Club Entrepôt, le plein de valeurs. Adhésion sans frais. Détails à clubentrepôt.ca.
T'as manqué le début du dernier segment? Tout finit par se retrouver sur le blvd.fm.
Hey, saviez-vous que la place pour votre nouvelle voiture, c'est Lévis Subaru? En plus, ils viennent tout juste de déménager dans plus grand et plus moderne, au 5085 Christophe Colomb à Lévis, près de l'autoroute 20. Pour une toute nouvelle expérience client, notre équipe vous attend. Visitez lévissubaru.com.
Faites le plein d'idées réno chez Céramix. Nous avons plusieurs promos qui valent le détour. Porcelaine 24x24 à partir de seulement 1,69 $. Vinyle à partir de 1,79 $. Et bois flottant à partir de 1,29 $. Mise de côté et entreposage gratuit. Céramix.ca.
Le chantier est en arrêt. Les employés ont besoin de toilettes. Les opérations ralentissent. La pression est à son maximum. Ça devient critique. Appel de renfort. Les voilà, Salivac. Les camions arrivent. Positionnement parfait. C'est parti. On livre. On installe. On pompe. Toilettes prêtes. Pompage en action. Le chantier repart.
Salivac, Salivac, Salivac.
Quel revirement. Inventaire, service, qualité. Quand ça compte vraiment, on est là.
Le nouveau CX-5 2026 est arrivé. Complètement redessiné avec un intérieur modernisé, incluant un écran de 12,9 pouces et Google intégré. Obtenez-le à partir de seulement 39 465 $. On vous offre aussi le Mazda 3 2026 à partir de 92 $ par semaine et le CX-30 traction intégrale 2026 à partir de 97 $ par semaine en location 48 mois. Mais le plus important dans tout ça, c'est de venir l'essayer chez Lévis Mazda. Chez Lévis Mazda, on s'occupe de vous.
Patio ou piscine en vue? Décorampe, spécialiste en garde-corps vert et aluminium, vous offre rapidement une fabrication québécoise sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15 %. Rendez-vous sur déco-rampe.com ou visitez-nous à Québec, Lévis ou Saint-Apollinaire.
Le homard est fraîchement débarqué chez Yuzu Sushi. Découvrez notre nouvel arrivage, quatre créations débordantes de saveurs en parfait accord avec votre envie de homard. Les vrais fans seront ravis. Disponible pour un temps limité. Yuzu, c'est toujours bon.
À Québec, un Ford, ça se branche chez Desjardins.
Profitez d'offres exceptionnelles chez Desjardins Autocollection. En mai, obtenez le Bronco Sport 2026 à partir de 89 $ par semaine en location 60 mois. Et le F-150 2026 en financement à partir de 0 % jusqu'à 72 mois. Pour les meilleures offres, passez nous voir chez Desjardins Autocollection.
À Québec, un Ford, ça se branche chez Desjardins.
L'actualité présentée par PCN Physio. Pour ceux qui sortent bouger quand il pleut et qui continuent quand il fait beau, viens voir les pros de PCN Physio. PCNphysio.com.
Boulevard.
Boulevard.
Semblant pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
13h23 minutes, vous êtes à l'antenne de l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Va suivre évidemment le retour de Denis Grevel avec Denis Véro et Audrey. Mathias Turcotte qui va passer faire son tour parce que c'est jour de conseil municipal. Alors, il va venir vous présenter des extraits des points de presse d'avant conseil municipal. C'est toujours des petits bijoux.
Soit du bonbon ou assez informatif.
Exactement.
Mais dans l'information, on a de la critique ces temps-ci, par exemple.
C'est
beaucoup d'enjeux, hein?
Ah, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, ça va être très intéressant à suivre. Ne manquez pas cela. On s'en va à l'instant même rejoindre l'animateur du 99.5 Montréal du lundi au jeudi à 18h et les samedis avec Jacinthe Varel de 8h à 10h. Rémi Villemur. Rémi, comment vas-tu?
Tout va bien.
Cool! Rémi, je te fais entendre, c'est toi qui m'as envoyé le lien, la première minute d'un vox pop avec des jeunes issus de l'immigration à Montréal, à savoir s'ils s'identifient comme Québécois.
Vous vous identifiez en tant que Québécois, oui ou non?
Non.
Non.
Vous identifiez en quoi alors?
Ben, chilien.
Chilien? Tu viens de Chili? Et toi?
Tunisien.
Pourquoi vous vous identifiez pas en tant que Québécois?
Je te fais vivre la Tunisie pour toujours. Tunisie...
À la vie à la mort! Si vous vivez au Québec, vous êtes issu du système, vous avez une éducation au Québec, vous êtes nourri au Québec, vous êtes logé au Québec, vous pensez quoi de ça?
Moi je sais pas en vrai.
Pas toi qui as choisi en fait.
Ouais, c'est pas.
Toi t'as juste spawn ici genre. Et toi?
Ouais, on est venu ici pour juste vivre, pas genre pour être Québécois. Oui.
C'est-à-dire pour travailler, étudier, etc.
Ça, oui.
Pas pour devenir Québécois. Tu viens, tu prends et tu rentres chez toi.
Oui.
J'ai croisé les gars avec trois gros sacs à Balasport. Est-ce que vous vous identifiez en tant que Québécois, oui ou non?
Moi, ouais. Ouais.
Quoi?
Bah, je suis né ici, j'ai grandi ici et j'ai des amis de ici, c'est tout.
En tant que Québécois marocain et toi en tant que Québécois chilien, est-ce que vous vous sentez accepté en tant que Québécois ou pas?
Ouais, même moi, jamais eu de discrimination, des trucs comme ça.
Alors voilà, ça continue comme ça pour une autre minute où la très grande majorité par la suite ne se sentent pas non plus comme Québécois. Rémi, t'en tires quoi de ce vox pop-là?
Oui, ben juste, c'est ça, il faut le préciser, là, parce que les deux premiers jeunes répondent qu'ils ne se sentent pas Québécois. Mm-hmm. Ensuite, il y en a deux qui disent qu'ils se sentent Québécois, mais tout le reste des jeunes qui
exactement
sont interrogés
sont cinq par Québécois la suite là, qui ne se sentent pas Québécois. Donc, ce qui veut dire que si on fait une moyenne, on est à 2/9, alors ça veut dire qu'on est à 22%.
Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose de scientifique dans cette vidéo-là, mais moi, j'ai travaillé comme prof dans plusieurs écoles, une dizaine d'écoles secondaires publiques à Montréal. Puis c'est une question que je posais chaque fois que j'héritais d'un mandat à court, ben, moyen ou long terme avec des jeunes. Je leur disais « Est-ce que vous vous sentez Québécois? » Puis je précise que la majeure partie des jeunes dans ces écoles-là sont issus de l'immigration. Puis c'est assez rare, en fait, qu'un jeune me disait « Oui, je me sens Québécois, j'aime le Québec. » C'est une question tellement délicate et tellement tabou. Et j'ai dit délicate parce qu'il faut faire attention quand on en parle, mais moi, je pense qu'il va falloir commencer à en parler, même s'il faut faire attention, puis même si c'est périlleux, puis même si on peut s'enfarger. Il y a des questions qui sont délicates et qu'on n'aborde pas parce qu'elles sont trop délicates. Cette question-là, on ne peut pas se permettre de ne pas nous la poser. C'est pas inutile de se demander qu'est-ce que ça va donner comme prochaine génération. Si on parle de jeunes qui sont âgés entre 12 et 17 ans, qu'est-ce que ça donne après quand ils arrivent au cégep, quand ils arrivent à l'université? Est-ce qu'on peut les réchapper? Est-ce qu'on peut leur faire rencontrer la culture québécoise? Est-ce qu'un jour ces jeunes-là se présentent, oui ou non, comme Québécois? Se poser cette question-là, là, c'est la base comme société. On peut parler d'environnement tant qu'on veut, on peut essayer de se projeter 15 ans en avant, le troisième lien, est-ce que ça va être pertinent ou pas? Si on ne se demande pas si les jeunes qui composent la majeure partie des classes à Montréal, dans le Grand Montréal désormais, ont une chance ou non de devenir Québécois, c'est aussi important, sinon plus.
Ben, je suis très d'accord avec toi parce que, et là, corrige-moi si je me trompe, on parle énormément d'identité québécoise, de valeur québécoise. Et là, ben, si ces gens-là ne se sentent pas Québécois, ben, ils ne pourront pas adopter ces valeurs-là et cette identité-là.
Ben, tu sais, s'ils disent qu'ils ne se sentent pas Québécois, ça veut dire qu'ils ne les adoptent pas pour le moment. À moins qu'ils aient mal compris la question. Vous aurez remarqué quand même dans l'extrait que vous avez fait jouer qu'il y a un jeune qui se fait demander, fait que t'es venu ici prendre et après c'est tout, puis il dit ouais. Donc c'est grave là, comme affirmation. Ça veut dire que ça vient d'un parent probablement qui lui a expliqué pourquoi ils étaient ici.
En effet.
Pour étudier, puis ensuite peut-être se barrer, là, s'en aller. Moi, pendant des années, j'ai regardé des vidéos de même, puis j'étais vraiment en colère. Je me disais, qu'est-ce qu'on fait? Il m'est même arrivé de me dire, faut-tu les retourner dans leur pays? Ça me passait par l'esprit, cette pensée-là. T'sais. Puis aujourd'hui, j'entre en mode solution. C'est peut-être la trentaine, là, mais ces jeunes-là ne s'en iront pas. Ces jeunes-là sont nés ici, pour beaucoup d'entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est une vraie question. Là. C'est plus êtes-vous en colère, êtes-vous pas en colère, qu'est-ce que ça te fait quand tu ressens ça? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Moi, j'en ai une solution. Elle était notamment dans un des rapports du commissaire Benoît Dubreuil à la langue française, un rapport qui a été ignoré pour la plupart des articles qu'il composait. Qu'est-ce qu'il a dit, Benoît Dubreuil? Il a dit on peut pas avoir un système, un des centres de services scolaires avec des écoles où tu as 80% de la population étudiante qui est issue de l'immigration. Ça marche pas, ça. Ça s'intègre pas. Quand on dit est-ce que l'intégration est possible? C'est lorsqu'il y a une majeure partie de gens qui composent le socle commun. À ce moment-là, vous avez une minorité de gens qui se retournent vers ça et qui se disent « voici le modèle, voici ce à quoi il faut s'intégrer ». Quand vous avez 80% d'élèves issus de l'immigration, qui s'intègre à qui exactement? Est-ce que ce n'est pas plutôt les jeunes Québécois d'ascendance canadienne-française qui s'intègrent à la culture immigrante?
C'est une
question de nombre. Alors, Benoît Dubreuil, qui est quand même pas un populiste, là, c'est un gars que je pense qu'il a comme 3 doctorats. Là, okay? Benoît Dubreuil, il disait, ça prend des écoles avec une majorité de jeunes Québécois francophones. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Et si c'est pas possible, ben, il faut déplacer les élèves. Il faut régionaliser. Il faut s'assurer qu'on n'accueille pas tout le monde à Montréal pour qu'ils s'installent ensuite dans des ghettos, parce que ça donne ça. Il n'y a pas d'autre solution, je pense. À part la solution qui n'en est pas une et qui relève, je pense, de la colère, voulant, ah, faut les ramener dans leur pays. Ça ne marchera pas, ça. La remigration, ça ne fonctionne pas. Okay? Puis on ne veut pas ça non plus. Ils sont ici, il y a un potentiel d'action à partir de ça. Mais il faut quelque chose de possible et de réaliste.
Ils sont ici, on en a besoin. Ils peuvent nous apporter beaucoup. Juste, c'est super stupide, mon niveau de l'alimentation, de la restauration. Tu sais, je veux dire, le mélange de culture est exceptionnel. L'affaire est que c'est là où ça devient essentiel de parler de ce que tu viens de dire, Rémi. Des fois, ça va être vu extrêmement conservateur, ça va être vu extrêmement négatif. Mais ils ont eu ce problème-là, puis on le voit en Europe. Les impacts de ça, ils sont flagrants du côté de l'Europe. Ils ont de la misère à revirer la situation de bord, à faire en sorte que leur règlement qui a toujours chapeauté la France, par exemple, soit respecté, soit encore vu comme étant « c'est le fonctionnement de notre pays ». Il y a quelque chose là à énormément discuter. Dans l'intégration, là, est-ce qu'on est capable d'intégrer dans la société selon ce qu'on souhaite et qu'on a toujours souhaité selon nos règlements? Est-ce qu'on les chapeaute bien? Puis il y a toujours eu un pan au niveau de la criminalité qui est à ne pas oublier. Là je ne vais pas parler d'une majorité, OK? Mais quand quelqu'un arrive ici, a fui je ne sais pas quoi, décide d'avoir un meilleur futur, s'il n'y a aucune façon d'y arriver, ils vont prendre la solution facile. Puis il y a beaucoup de choses qui est à discuter avec les policiers, avec les agents d'intégration aussi d'un corps policier, qui est associé à la criminalité et l'immigration. Puis là, je ne veux pas qu'on pense qu'on fait un amalgame ou quelque chose de douteux entre l'immigration puis la criminalité, mais ce dont Rémi jase, l'intégration, c'est super important pour ça aussi. On leur donne-tu les mesures de subvenir à leurs besoins primaire, de se loger, de se nourrir, de travailler avec nous, de converser avec nous, de se sentir intégré pour ne pas tomber dans des côtés sombres pour survivre.
Moi, je pense que pendant trop d'années au Québec, je suis d'accord avec toi, Pascal, il y a eu quelque chose comme une pensée magique. On s'est imaginé qu'en fait, en priorisant un scénario improbable, on allait obtenir le résultat qu'on voulait. C'est-à-dire, vous prenez 9 personnes, vous les mettez ensemble, ils sont tous issus de l'immigration, puis vous leur dites « Hey, par miracle, que va-t-il arriver? Vous allez vous intégrer. » Ben non, c'est pas possible. Comment c'est possible? Ouais. Comment c'est possible? Le prof, en plus, il est même pas, il, lui aussi est issu de l'immigration. C'est un désastre. Ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut changer le modèle. Et je pense qu'on a encore un peu de temps pour le faire. Ces jeunes-là, ils vont arriver au cégep. J'espère qu'ils vont rencontrer toutes sortes de monde. Qu'il y en a qui vont avoir l'idée d'aller étudier en région, qui vont réaliser que le Québec, c'est pas juste. Le quartier Saint-Léonard à Montréal où ils ont grandi, qui vont découvrir une culture. Il y a quelque chose à faire avec ces jeunes-là. Je suis pas sans espoir, mais on peut pas garder ce modèle-là pendant 5, 10, 15, 20 ans et s'imaginer que par miracle, il va se passer quelque chose. C'est impossible, c'est de l'ordre de l'impossible.
Je suis très d'accord avec toi, puis j'ai l'impression, Rémi, en terminant, que c'est parce que on considère et je crois avec raison quand même, avoir des valeurs qui sont bienveillantes envers les gens. Donc, on se dit, hey, c'est sûr qu'ils vont adopter nos valeurs. Mais il n'y a rien de plus improbable.
Oui, puis en passant, là, quand je dis que je suis pas désespéré, en ce moment, à Montréal, là, je regarde qui porte des chandails du Canadien de Montréal, qui porte des casquettes du Canadien, qui se retrouve dans les rassemblements, et il y en a de la couleur.
C'est
il
n'y
a pas juste des blancs des yeux blancs, avec des cheveux blancs. Il n'y a pas juste ça, il y a toutes sortes de monde. Donc, il y a des petites bases sur lesquelles il faut construire, mais un printemps, ça ne dure qu'un printemps. Donc, quand on va avoir gagné la Coupe dans quelques semaines, ben, il va y avoir d'autres opportunités de se rassembler. Est-ce que ce sera la culture? Est-ce que ce sera la politique? Est-ce que ça va être un projet de pays? Je ne sais pas. Mais il va falloir construire autour de ça. Puis il faut juste se mélanger. Il faut se mélanger parce qu'il n'y a aucune façon. Sinon, c'est un conflit qui nous attend. C'est un conflit. Ça ne sera pas beau, hein?
Je suis très, très, très d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il y a encore le temps d'agir et il faut le faire. Ça va être nécessairement un bon sujet de la prochaine campagne électorale. Puis... attendez avant de traiter les gens de racistes ou d'extrémistes quand ils arriveront avec leurs propositions. On pourrait demander ça aux gens. Qu'est-ce que tu en penses, Rémi Villemur?
Oui, pourquoi pas.
Ouais, hey Rémi, je tiens à m'excuser en terminant parce que j'ai oublié ça.
Non, jase. On en jase. Jase avec Rémi Villemur.
Boulevard 102.1.
Promis, mon chum, j'oublie plus jamais ton thème.
Bye bye tout le monde, passez le bonjour à mon ami Gabriel, je pense qu'il s'en vient.
Oh oui, Gab Gigard qui s'en vient justement, on va parler des pertes d'emplois au Québec, tout près de 130 000 pertes d'emplois, Pascal, au Québec. Pendant ce temps-là, on dit, hey, avec les tarifs, là, le secteur de l'automobile, là, il est frappé de plein fouet. Ben, c'est drôle, en Ontario, eux autres, ils en ont créé à peu près 130 000. Qu'est-ce qui se passe avec nous autres au Québec? Gab Gigard va nous expliquer ceci après cette courte pause à Boulevard 101, l'émission On en jase.
Je suis cycliste.
Avec le rouge?
Non, peut-être pas si petit que ça.
Tu peux pas.
Hey, comment ça va?
Je peux pas faire ça. C'est piste cyclable, il compte les piétons et les gros chiens. Fait que s'il y a un gros chien qui passe, il passe pour un cycliste.
Là, arrêtez de chasser les chiens, c'est piste cyclable, puis faites votre job.
Je te rappelle que t'as déjà mis un cadenas là, au collier de ton bouvier bernois. Tu pensais que c'était ton vitesse.
Ben oui, j'ai un pauvre bouvier sur le rack à bessic, toi, entre deux BMX. Moi, j'ai vu mon gars partir hier à cheval sur un gros chien. Il était sûr qu'il avait pris son bessic. Des choses qui arrivent dans le monde merveilleux de respect citoyen.
Who let the dogs out?
Hey, je t'entends vraiment pas. Ah ben là,
c'est
et la
ça
voix
sent
très beau, toi.
Gravel dans le retour, tous les jours en semaine, 14h.
La légende disait qu'on préparait son retour, qu'il reviendrait en grand, encore plus.
Excusez, le Jeep Cherokee est vraiment en version hybride.
Hybride, c'est historique.
Ah, oui. Avec une autonomie mythique.
J'avais une conférence,
une consommation réduite,
impressionnante, qui est comme
un
4x4
de
ultra le free market.
Ce n'est pas une légende urbaine, mais bien
le retour d'une légende.
À partir de seulement $42,390. Venez en faire l'essai
chez votre concessionnaire Jeep.
Hein, tous les détails sur Jeep.ca.
Chez Desjardins Assurance, c'est pas d'hier qu'on fait économiser.
OK, ça change quoi?
Ben, on pourrait assurer votre logement à prix compétitif.
Cool!
Très cool. Demandez une soumission et achetez votre assurance.
Il y a rien dans cette petite ville perdue d'Alabama, il y avait tellement rien. C'est terrible. Mais non, c'est le fun. C'est toujours le fun de toute façon. Voyager un petit peu pour le travail.
Délicieux. Oh, le nouveau menu chaud comme tu veux de Subway. C'est trois sandwichs. Poulet ranch ou piri-piri relevé. Poulet au miel épicé corsé. Ou délit façon Nashville, endiablé. Fraîchement préparé dans notre nouveau pain au piment Ghost. C'est relevé, corsé, endiablé.
Etc.
Plus de remise en question. Tu peux suivre les indications. Subway, mange frais, sens-toi bien. Fraîchement préparé pour un temps limité dans les restaurants participants.
Déjà au volant d'une Volkswagen? C'est le moment d'en profiter. Obtenez 1 % de rabais sur votre prochaine location chez Volkswagen Saint-Nicolas. Nouveau modèle, nouvelle techno, même confiance à meilleur prix. Passez nous voir dès aujourd'hui chez Volkswagen Saint-Nicolas.
Allô, c'est Marie de l'entrepôt de la Renault. Envie d'une salle de bain à votre image? Nos douches complètes sont offertes à partir de $489. L'entrepôt de la Renault, ouvert au public, sortie Chauveau sur Henri IV. EntrepôtDareno.com.
Énergir, c'est beaucoup plus qu'un réseau de tuyaux souterrains. C'est aussi un solide réseau d'humains. Plus de 210 000 clients, de nombreux partenaires et plus de 1 700 employés. Des spécialistes d'énergie et de décarbonation, des ingénieurs, des analystes, des spécialistes en innovation, des techniciens et techniciennes. Vous avez compris. Chez Énergir, on fait aller notre réseau pour avancer ensemble dans la transition énergétique. Et on est loin de s'arrêter. Énergir, pensez l'énergie autrement.
Ta voiture est comme pas nous.
Collaborateur te raconte l'actualité.
Boulevard 102.1.
Je vous le rappelle, aujourd'hui, c'est une petite journée avec deux averses par-ci, par-là, qui va frapper Québec. Et par la suite, eh bien, c'est du beau temps qu'il va y avoir. 23 degrés, possibilité d'averse pour mercredi, seulement 40 %. Ensoleillé, 13 degrés jeudi. Ensoleillé, 17 degrés mercredi. 418-971-1021. Vous êtes plusieurs à réagir. Continuez comme ça. Et n'oubliez pas, sur blvd.fm, vous pouvez nous écouter via la web radio et également aller écouter nos meilleurs moments. Pascal Séva va nous parler avec Gab Giguère. Qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Je vais y aller avec ce qui est un petit peu plus prenant, Jeff, si tu me permets. Mais entre autres, cette annonce de Gestev qui annule tous les spectacles de Patrick Bruel à Québec fait réagir. On s'attendait à ce que ça se fasse, mais c'était encore en consultation. Donc, c'est officiel. Tout ce qui était prévu au Capitole de Québec dans le cadre de sa tournée Alors Regarde 35, c'est à l'eau. On annule ça. C'est l'affaire Patrick Bruel qui a pris une grande dimension. Hein. C'est mondial maintenant. Après des révélations de Mediapart et du magazine Elle, il y a une trentaine de femmes qui accusent le chanteur de comportement allant du harcèlement sexuel au viol. Il y a aussi une journaliste du Québec qui a parlé d'une expérience quelque peu particulière avec M. Bruel. Je fais ça parce que ça va se rendre probablement en cours. On le sait, là, on est là-dedans. Mais chanteur de 67 ans qui conteste fermement l'intégralité des accusations. La tournée de Bruel s'arrêtait trois soirs à Québec, mais il y a des concerts aussi prévus à l'Olympia de Montréal. On n'a pas encore idée si c'est annulé à ce niveau-là. Il y en a d'autres 14 heures. Vous rappeler, qui a été tué dans une fusillade à Frampton. Et là, il y a un jeune de 18 ans qui a été arrêté par la SQ. C'est une situation qui s'est passée en septembre 2024. Ça avait un peu saisi tout le monde parce que ben, la personne qui est décédée, c'est un mineur de 14 ans. Aujourd'hui, cette arrestation de 18 ans pour un mineur du côté de Rivière-des-Prairies, ben, c'est une personne majeure, mais elle était mineure à l'époque. Donc, on était dans un mandat d'arrestation pour avoir déchargé une arme à feu et incendie criminel. C'est une quatrième arrestation dans tout ça. Plus de détails à venir. Un élan de 14 millions de dollars pour le parc du Mont-Saint-Anne. On veut tourner la page avec ce qui se passe sur l'avenir du Mont-Saint-Anne, du côté de la CAQ du moins. Et c'est ce qu'on a décidé de faire à 4 mois des élections. Donc, la CAQ qui espère pouvoir passer à un autre dossier, dans un dossier qui était assez épineux pour la région de Québec. Et on a pris ça au sérieux aujourd'hui en annonçant cette enveloppe budgétaire.
On va rejoindre à l'instant même Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va toujours bien après une victoire du Canadien.
Ben oui, grosse victoire hier, justement, de 3 à 2. On se le rappelle avec un but d'Alex Newhook en prolongation. Gab, il y a un endroit où ça va moins bien, c'est au Québec, parce qu'on a perdu dans les 12 derniers mois 129 600 emplois. Alors qu'en Ontario, même si le secteur automobile a été frappé de plein fouet par les tarifs douaniers de Donald Trump, on a réussi à créer 136 100 emplois pour la même période. Qu'est-ce qui explique cette différence-là?
C'est une très, très grosse différence. Tu as raison de le mentionner. Là, quand on regarde ces emplois-là, c'est des emplois qui sont temps plein. Il y a quand même eu des créations d'emplois au niveau temps partiel. Mais si on analyse le tout, ce qu'on constate, c'est que le secteur privé du Québec est lourdement touché par la question des tarifs douaniers. On voit que plusieurs secteurs touchés, sans surprise, les produits fabriqués à partir de bois sont très fortement touchés. On le sait, depuis des années, on est en guerre commerciale, même avant là, les tarifs douaniers de Donald Trump qui sont venus exacerber, parce qu'il faut quand même le dire, il y a eu une augmentation des tarifs douaniers sur le bois. Et on a eu les secteurs des films, secteurs pharmaceutiques, produits de transformation en général, notamment qui incluent de l'aluminium ou du métal, du fer. Donc, ça fait en sorte qu'on a une vraie réduction du nombre d'emplois, mais en parallèle, puis ça, c'est vraiment important de le dire, on a une augmentation soutenue des emplois du secteur public. Presque 40 000 emplois de plus au Québec dans le secteur public. Et c'est là qu'on voit vraiment qu'on est complètement déconnecté au Québec, où on a une économie qui ne va pas très bien, des emplois qui sont perdus, mais qu'en parallèle, là, le secteur public, tout va bien. Tout va bien, on garde la ligne tranquillement. Puis ça fait écho à ce que j'avais fait comme recherche en mars de cette année, où je disais, bien, depuis 2019, là, on a créé 55 % des emplois du secteur public au Québec. 55 % de l'ensemble des emplois créés et du secteur public. Donc ça, c'est problématique parce que c'est pas avec ça qu'on va avoir du dynamisme économique. Pendant ce temps-là, il se passe quoi en Ontario? Création d'emplois. Certes, ils sont touchés par les tarifs douaniers, mais il y a une plus grande résilience. Tant mieux pour eux. Mais en parallèle à ça, ils réduisent de 40 000, eux. C'est exactement l'inverse. Ils réduisent de 40 000 le secteur public, notamment au niveau fédéral, il faut le dire, mais pas que. Et donc, on est devant un gouvernement qui se dit, ben, moins de secteur public parce qu'on comprend que c'est pas comme ça qu'on va avoir du développement économique. Tandis qu'au Québec, on se dit plus de secteur public. Je pense que ça, c'est assez dommage. On devrait réduire notre part de secteur public puis réduire les impôts de façon conséquente, notamment pour les entreprises, mais pas que, pour être plus attractif. Donc ça, j'avoue que c'est quelque chose de dur à voir là, dans la dernière année. Ces chiffres-là font mal parce que c'est sûr que c'est des familles québécoises, mais en parallèle à ça, on a encore très peu de développement économique, une croissance très faible. Puis les projections sont pas bonnes pour 2026 au Québec. Là, on risque d'être la pire province, donc il va falloir que le gouvernement agisse. Puis c'est pas avec plus de subventions, mais c'est certainement avec moins d'État.
Ouais, c'est clair. Donc là, on s'en va en campagne électorale. Faut surveiller ceci de près parce que dans le fond, là, on a, du côté de Christine Fréchette, on a décidé d'abaisser de 5 % l'imposition pour les PME, mais ça va prendre beaucoup plus que ça.
Je pense que ça va prendre beaucoup plus que ça. Et c'est surtout qu'il va falloir voir l'importance aussi, il faut le dire, l'importance, oui, de réduire les impôts, mais c'est l'importance de renégocier également l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Hein, parce qu'il faut dire que si on n'a pas une bonne entente, là, il faut vraiment prioriser. Là, évidemment, c'est au niveau fédéral, là, c'est pas au niveau provincial, mais ça va être absolument incontournable. Sans quoi, on risque d'avoir davantage de pertes d'emplois parce que le commerce au Québec avec les Américains est très, très important. Maintenant, pour ce qui est du provincial, effectivement, il va falloir faire bien plus. J'espère que ce ne sera pas juste pour les PME, puis ça va être pour l'ensemble des entreprises. Puis c'est ça qui est compliqué là, en ce moment au Québec, parce qu'on a une première ministre avec un gouvernement qui nous expliquait là, il y a 6 mois, là, pas plus tard que 6 mois, que la clé là, pour le développement économique pendant qu'elle était ministre de l'économie, il faut le rappeler, c'était l'interventionnisme. C'était le gouvernement du Québec là, qui jouait au maestro, puis aujourd'hui, on nous explique que c'est moins l'interventionnisme. Qui croit? Ben, Christine Fréchette de novembre ou Christine Fréchette de mai?
Ben, en tout cas, c'est sûr que si Christine Fréchette regarde ces statistiques-là, peut-être qu'elle a changé d'opinion, qui sait. Hey, Gab, je veux terminer avec... moi, je l'adore, cette chronique-là. Où vont vos impôts? C'est une chronique qu'il y a à chaque lundi dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Et là, on apprend qu'on a dépensé 774 000 $ pour ouvrir un haut commissariat aux îles Fidji. Veux-tu bien me dire pourquoi on dépense ce montant-là?
Je comprends qu'on veut diversifier nos partenaires commerciaux, mais là, commencer à dilapider de l'argent sur les îles Fidji, tu sais, cet article-là est particulièrement intéressant parce qu'il démontre plusieurs éléments. Première des choses, on avait déjà un consulat honorifique qui coûtait environ 5 000 par année, ce qui est beaucoup moins cher que le 775 000 puis je pense que ça faisait la job. Et quand on creuse un petit peu plus bas, ce qu'on constate, c'est qu'on a aussi des enveloppes de subventions à hauteur de plusieurs millions, là, c'est plus que 10 millions.
Hey, écoute, je te les nomme. Les femmes entrepreneurs du Pacifique gardiennes des îles. On a donné 7,85 millions. Renforcement de la résilience des femmes de la région de l'océan Pacifique, 5 millions. Soutien au fonds de résilience du Pacifique, 7,5 millions. OK, on peut pas dépenser cet argent-là chez nous, s'il vous plaît?
Ça sert à quoi? Parce que je peux pas croire qu'ils font juste à donner. Il y a sûrement une entente à quelque part. Il y a sûrement des gains à quelque part. Tu sais, je veux dire, sinon, c'est niché, là, pas à peu près.
Pascal, pour avoir une entente, ça, je suis persuadé. Maintenant, des gains, c'est une autre histoire. Tu sais, honnêtement, Robert, qui habite à Lévis, là, qu'est-ce qu'il y en a à faire, lui, d'envoyer son argent aux îles Fidji? Tu sais, franchement, là, on est dans un déficit, faut juste pas l'oublier. 2026-2027, cette année, c'est 66,9 milliards de projetés, c'est pas normal. Je pense qu'on a beaucoup de gras à couper et c'en est un excellent exemple.
Bien, pour répondre à Pascal, je vais tenter justement, Pascal, on réfléchira à ça, puis on pourra s'en parler demain. Je vais tenter de te convaincre sur la pertinence du 5 millions sur 5 ans pour le renforcement de la résilience des femmes de la région de l'océan Pacifique, parce que l'objectif du projet, c'est le projet vise à améliorer la résilience des communautés et à renforcer le leadership des femmes et des filles aux Fidji, aux îles Salomon, à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Tuvalu et au Vanuatu, explique le fédéral.
C'est sûr que tu as nommé des endroits qu'on entend peu parler, mais sûrement quelque chose.
Ben moi, je
c'est
pense...
des traités internationaux, c'est des partenariats diplomatiques. Je peux pas croire que ça nous rapporte pas, puis ça fait pas en sorte qu'on travaille sur des choses avec des accords, par exemple, aériens, ou je sais pas.
Ben, à Taverne, l'autre jour, on parlait justement de la résilience des communautés.
Jean-François Fortin, j'essaie de trouver ce qu'il y a derrière les décisions du ministère des Affaires mondiales.
Je salue ton courage, Pascal.
Mais non, mais c'est parce que, Jeff, tu peux pas aller de l'avant avec quelque chose du genre pour aucune raison. Faut que ça te rapporte. Il y a personne dans ma gang, je cherche, là. Ben, Gab, il rit, il est là, il lève le doigt.
418-971-1021. Gab, une petite réponse en terminant?
Ben, c'est parce que c'est... Les intentions vont être là, mais les résultats, j'en doute très fortement. C'est ça le problème avec la politique. Il va toujours avoir une bonne raison pour dilapider l'argent des contribuables. L'autre affaire, c'est de regarder c'est quoi concrètement l'impact. Pas sûr qu'on va voir de beaux résultats.
Gabriel Giguère, analyste politique senior à l'Institut économique de Montréal. C'est toujours un bonheur de te parler. Je te souhaite une excellente semaine.
Bye-bye.
Salut mon ami Gabriel Giguère, avec qui on s'entretient une fois par semaine ici à l'émission On en jase.
Il y a peut-être quelque chose... Je veux pas mettre des lunettes roses, mais Jeff, il y a peut-être quelque chose en se disant « Hey, si on a un bon partenariat, une bonne communication avec Fidji, là, les îles Fidji et tout ça, ben, c'est peut-être un endroit stratégique pour la politique ou la géographie. Ou tu comprends-tu si on se fait attaquer? » Non, tu veux
pas. Ben, il va falloir que quelqu'un m'explique, tout
simplement. C'est ça. Ça, c'est sûr que moi aussi, j'aimerais ça.
Je suis prêt à entendre l'explication.
J'aimerais ça aussi.
Je suis très, très, très prêt à entendre l'explication. Ne t'inquiète. On fait une courte pause, une dernière?
Non, là, les gens qui nous écrivent, ça doit être juste pour ça être payé un beau voyage aux îles Fidji. Ah, ben, le billet d'avion est à 4 000
Oui, bien, il y avait une des dirigeantes là, qui avait chargé 18 000 $ en frais de voyage. Oh. On revient. Pascal, c'est vrai.
Jean-François Fortin.
Le Canadien est parti pour la Coupe Stanley.
Oui, monsieur.
Mais en ce début d'émission, ça va être à réécouter sur le blvd.fm. Tu nous as fait une annonce comme quoi tu quittais Boulevard 102.1.
Ben oui, c'est ma dernière semaine officielle. Parce que la semaine étant 3 jours. 3-4 jours.
4 jours,
voyons.
Semaine
dans ma tête,
de pinkiss.
C'est maintenant. Oui, je vais quitter les ondes de Boulevard, mais je reviendrai fin juin jusqu'à début août pour être dans diverses émissions. Là. C'est un choix qui est vraiment personnel. Ça se fait de façon très, très élégante. Tout se passe bien, puis c'est pas un désaveu de personne.
Oh non, et tu sais, ma chum, qu'avec le talent que tu as, tu es rempli de talent, tu sauras rayonner ailleurs. J'en suis convaincu.
J'ai des petites envies d'accomplir des choses. Fait qu'à un moment donné, faut penser à soi.
Hey, faut se lancer. Moi, tu sais, j'ai à peu près changé de job 8 fois dans ma vie.
Ah ouais,
puis
hein?
Je l'ai jamais regretté.
C'est rare
vraiment.
Pour ta génération. Moi, félicitations, tu t'es écouté.
Je me suis toujours écouté, j'ai jamais regretté vraiment.
Mais j'adore ça, là. Je vais m'ennuyer. Là, pendant c'est le mois ça. Où je serai pas là.
Retour de Gravel suit à l'instant même. J'ai été assez fou pour perdre 100 000 piastres par année pour aller faire un job que j'aime.
Oui, mais ta santé mentale...
C'est ça. Exactement, ça nous en parlera. Retour de Gravel suit à l'instant. Mathias Turcotte nous arrive avec des bonnes nouvelles de l'hôtel de ville, c'est-à-dire un surplus budgétaire de 149 millions de dollars. Ça va être écouté dans le retour de Denis dans quelques instants.
Gravel.